Bonjour à tous et bienvenue dans la Ligue des joueurs ordinaires. Une cinquième émission en ce début de mois de février 2016. Un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'en plus de nos chroniqueurs habituels qui me font l'honneur, l'immense honneur d'être présents chaque mois autour de cette table, nous accueillons un invité un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un auteur de jeux de rôle. Oui, ça existe encore en France aujourd'hui, des auteurs de jeux de rôle qui font ça de façon commerciale mais qui n'en vivent pas. Nous accueillons aujourd'hui Nicolas Henry. Bonjour Nicolas.
Salut.
Voilà, c'est un petit salut ça.
Bah tout, ouais, tout en fait, t'as une voix qui fait un peu électrochoc si tu veux, donc je me suis réveillé deux fois quand t'as parlé.
Ouais, j'ai vu ça, ouais. En plus de lui, donc nous avons à côté de lui Gomelon. Bonjour Gomelon.
Salut.
Nous avons en face de moi Kétrus qui est toujours attablé et en ingénierie son.
Salut Zef.
Et nous avons à ma gauche Satan qui est toujours là.
Salut tout le monde.
Bon, une émission, donc, comme j'ai dit, un petit peu spéciale. Au sommaire aujourd'hui, donc, nous allons toujours avoir nos coups de cœur et coups de gueule sur le mois, puisque chacun va nous présenter un petit truc. Ensuite, nous allons faire une petite présentation rapide de notre auteur, donc de Nicolas Henry. Nous passerons ensuite sur un meeple sur un plateau avec une émission, enfin une section un petit peu spéciale aussi, parce que là, on ne va pas présenter un seul jeu, mais plusieurs jeux. Nous allons présenter ce qu'on appelle dans le jargon le jeu apéro. Nous allons faire une petite définition et avoir plusieurs jeux aussi que Gomelon va nous présenter. On passera ensuite à l'évasion rôlistique avec Satan. Il va nous présenter donc le jeu de notre invité ici qui s'appelle
Nicolas. Donc c'est Wulin.
Voilà. Qui est un jeu sur quoi d'ailleurs, ça peut un truc chinois. J'ai
du kung fu.
Du kung fu mon gars. Et ensuite on fera donc une petite interview de notre auteur pour savoir comment on passe. Comment on passe le pas, comment on arrive sur le côté commercial de la chose, comment on a envie de faire découvrir notre univers à plusieurs personnes. Et puis voilà, ce sera une grosse émission, je pense. Vous êtes prêts?
Ouais,
allons-y.
Ouais.
Allez, c'est parti. On passe tout de suite avec donc, les coups de cœur, coups de gueule. Qui veut commencer sur cette première partie?
Bon, vas-y, comme non.
Bon, bah, moi, je vais faire un coup de cœur et un coup de gueule en même temps. Eh oui, car c'est sur le palmarès de Cannes, du Festival international de jeux de Cannes qui aura bientôt lieu, hein, qui a lieu à fin février. Moi, mon coup de cœur, je suis super content de la sélection pour l'As d'Or. Je trouve que c'est une sélection qui est à la fois populaire et de bon niveau, hein, puisque la plupart des jeux qui sont présentés sont des jeux que l'on connaît bien. Nous, on a beaucoup joué, même certains qu'on a présentés. Seven Wonders Duel, Mafia di Cuba, Mysterium, Maître Renard, que moi j'aime beaucoup au niveau enfant. Et mon petit coup de cœur, mon petit coup de gueule justement, c'est dès que tu as une sélection, automatiquement, ça fait grincer des dents. Certains disent pourquoi est-ce que mon jeu préféré à moi, il n'est pas dans la sélection, ou qu'est-ce que c'est que ces jeux. Certains disent que c'est des vieux jeux, donc il faut m'expliquer. Hein, la plupart sont sortis en 2015, au moins en version française. Donc voilà, c'est mon coup de cœur, mon coup de gueule, c'est un petit peu. Il y en a marre des gens qui gueulent tout le temps sur les sélections au moment où on les annonce.
C'est marrant, ça. J'ai l'impression que bon, l'année dernière, l'émission n'existait pas, mais on avait déjà ce genre de petit coup de gueule déjà entre nous, puisqu'on râlait beaucoup sur les gens qui râlaient justement sur ce genre de sélection. D'ailleurs, j'en profite, je vais les placer à la fin de l'émission, mais le FIJ, donc le Festival international du jeu de Cannes, qui est un des plus gros festivals qui peut exister en Europe aujourd'hui, je crois que c'est le deuxième ou le troisième, on y sera si tout va bien à la fin du mois de février, on fera peut-être une petite surprise là-bas pour la Ligue. Bref, merci Gomelon. Satan, tu avais aussi un truc à dire sur le coup de cœur, coup de gueule?
Alors moi j'ai un petit coup de cœur là, c'est un petit jeu de figurines qui vient de sortir, ça s'appelle Dead Man's End, et voilà, c'est parce que je l'ai testé il n'y a pas longtemps, c'est donc un jeu de western, c'est-à-dire que vous êtes dans une petite ville, dans l'ouest, chacun joue une petite bande, et bah voilà, c'est un jeu simple et rapide.
Simple pour un jeu de figurines?
Ça va, à part 2-3 mécanismes à saisir qu'on arrive à saisir assez vite, mais bon, qu'il faut se souvenir à chaque tour. En fait, ouais, c'est vraiment très simple, très rapide. En fait, c'est 3 petites scènes qu'on fait en fait comme un film. Il y a une intro, le centre du film, le grand final. Que hier, j'ai donc logé une balle entre les deux yeux de mon adversaire d'un coup, comme ça, boum, voilà, enfin, ça peut arriver, quoi. Non, le jeu est très bien, l'ambiance est excellente, il est rapide, il est simple, il est pas trop cher pour un jeu de figurines. Et surtout, il y a tout un système de compétences, enfin, pas de compétences, mais d'expériences, d'évolution de nos bandes, etc. Et c'est vraiment bien fait, vraiment bien pensé, quoi.
D'accord, donc on retrouve un peu le côté Mordheim de l'époque sur Warhammer.
Alors, moi, j'ai pas connu Nordheim, d'après ce qu'on m'a dit, ouais, ça ressemble un petit peu à ce côté-là, justement, où on s'identifie beaucoup plus. Enfin, on a vraiment notre bande, quoi, on leur donne des noms, ils ont chacun leur petit talent, etc., quoi. On est vraiment dedans, quoi.
Voilà. D'accord, et tu parlais de tarifs, pas très cher, c'est environ de quelle fourchette de prix?
Quand je dis pas très cher, c'est parce qu'on peut acheter une bande pour 25 euros, c'est-à-dire 7 figurines, je crois. Mm-hmm. Voilà, donc on peut jouer avec 7 figurines. Après, si on commence à acheter les cartes de jeu, c'est 18 euros. Bon, un paquet peut faire au moins 2 ou 3 joueurs.
D'accord.
Le livre des règles, 28 euros. Après, ça joue dans une ville western, donc il faut faire les décors ou les acheter.
Ouais, là, ça c'est toujours le problème très, très vite.
Mais pour commencer, moi j'ai juste acheté le livre de base. J'avoue, j'ai ressorti des figurines d'un autre jeu qui était typé western, etc.
Je crois que ça s'appelle Malifaux.
Je crois que c'était Malifaux, qui est un peu le même système, avec des petites bandes, etc., mais qui était vraiment chiant à jouer.
Ouais, pour les règles de Malifaux, c'était un peu trop complexe
c'est
pour
pas grand-chose. Trop complexe, là c'est carrément l'inverse, quoi. Là c'est très facile, très simple, et on y est vraiment, quoi.
D'accord.
C'est du western.
On en parlera sûrement dans une prochaine émission, quand on aura tous testé, mais le seul truc qui me fait toujours peur sur les règles qui sont simples et rapides, c'est qu'au bout de 10 ou 20 parties, au final, tu t'emmerdes un petit peu, parce qu'il n'y a pas de renouveau dans les règles. Mais bon, à voir.
Là, il y a toute une campagne, en fait. Il y a plein de différents scénarios, etc. Ça joue sur ton scénario, mais on peut faire du duel, hein, c'est pas gênant, mais il y a surtout le système de campagne qui est vraiment marrant, quoi.
Okay.
Vraiment sympa.
D'accord, on va à parler dans une prochaine émission. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de jeux de figurines, je crois qu'on n'en a pas encore fait depuis le début de l'émission.
On n'a pas le temps, on n'en fait pas assez des émissions.
On ne fait pas assez de figurines, on ne fait pas assez d'émissions. Kétrus, tu avais un truc sur coup de cœur, coup de gueule ?
Pas vraiment de coup de cœur, pas vraiment de coup de gueule, juste une petite actu d'un jeu super attendu qui a été pledgé abondamment, c'est le 7e continent, parce qu'ils ont ouvert le Pledge Manager il n'y a pas très très longtemps. Et ils ont encore explosé les records. Ils sont à 1,4 million d'euros de déquets sur ce jeu.
Oui,
Moi, j'ai une question, c'est quoi le Pledge Manager ?
Alors en fait, tu backs sur un jeu et tu vas...
Je quoi, pardon ?
Tu backs...
Bah oui, c'est pas pour moi.
Oui, non, mais t'as bien fait.
T'as tout à fait raison. C'est vrai qu'on pourrait faire un sujet sur Kickstarter
du genre. Je crois que Waz avait proposé ça, d'ailleurs.
Ouais, mais lui c'est un fou de ce genre de choses.
Donc en gros, tu proposes une somme... Enfin, tu dis que tu vas donner une somme d'un montant que t'as choisi. Et tu vas débloquer des paliers en fait sur ce que tu vas recevoir du jeu. Donc souvent c'est des add-ons. On pourra en parler avec Nicolas plus tard sur son jeu qui a été aussi en financement participatif. Et après en fait en fonction de l'argent qui a été récolté, ils vont débloquer des paliers qui vont débloquer d'autres contenus du jeu. Donc quand la campagne est finie, ils attendent un peu et après ils te renvoient un mail en te disant que là tu vas pouvoir payer, mais tu vas aussi pouvoir ajouter d'autres add-ons que tu n'avais pas mis au moment du backing, quoi. Et après ça, ils l'ouvrent aussi au public, ce qu'ils appellent ouvrir le Pledge Manager au public, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent venir et acheter des add-ons dessus. Voilà.
D'accord, et le jeu, le 7e continent, c'est quoi, rapidement ?
C'est un très gros jeu, je pense que là, on ne va pas en parler sur les coups de cœur, coups de gueule, mais c'est un truc énorme d'exploration, on va dire, mais c'est ni l'endroit ni le moment.
D'accord, ok. Bon,
on en reparlera, et Waz voudra en parler.
Ouais, je pense qu'il en parlera quand il aura reçu le jeu, parce que je pense qu'il a dû baquer. Donc, coup de cœur, coup de gueule, assez rapide pour le coup. D'autres choses à rajouter autour de gens ? Non, les gens ? Non, d'accord. On passe rapidement.
Moi, j'aime bien le Rami.
T'as bien quoi ?
J'aime bien le Rami.
Le Rami ?
Ouais,
c'est sur Kickstarter ou pas ?
Pas encore,
d'accord. Par ailleurs, il y a beaucoup de mecs qui font sur Kickstarter des jeux de cartes spécifiques pour différents jeux. Je sais pas comment ils font pour accoler la thune dessus. Pourquoi pas. On passe rapide. Bah, tiens, garde le micro, justement, Nico. Présente-toi en quelques minutes. Qui es-tu ? D'où viens-tu ?
En quelques minutes, c'est difficile pour une sommité comme moi, en fait.
Oh là là.
Elle padisha.
C'est à ce moment-là que tu coupes le micro, normalement. C'est-à-dire que j'ai plein de casquettes différentes, je fais tout très mal, en fait, mais dans plusieurs spécialités différentes.
D'accord, on va s'occuper juste de ton côté joueur, dans le jeu de rôle, on va dire, parce que j'ai pas envie de savoir de ta vie privée, mais tout ce qui est, donc tu es auteur de jeu de rôle aujourd'hui, t'as fait quoi en termes de jeu ?
Comment ça, je suis auteur de jeu de rôle ? Alors je sais pas si on dit auteur ou créateur, parce qu'en fait auteur, c'est un peu...
Alors je me suis fait rattraper par Charles Chevalier, justement, lorsque je l'ai interviewé pour Abyss, où il m'a mis une petite claque gentille en disant je suis pas créateur de jeu, je suis auteur de jeu. Donc je vais utiliser ce terme à partir de maintenant jusqu'à la fin de la vie.
C'était des jeux de plateau, c'était différent par rapport au jeu de rôle, qui est peut-être plus littéraire, tu vois.
Justement, t'es plus auteur sur un jeu de rôle parce que t'écris plus de choses que sur un jeu de plateau. Mais bon, Charles Chevalier, si tu m'écoutes, ne m'en veux pas tout de suite. Donc voilà, moi je veux dire que t'es auteur de jeu de rôle, t'as écrit tout un background, tout un lore d'un jeu, a priori, ou au moins un, voire deux même. Donc tu es auteur de quel jeu aujourd'hui ?
Alors j'ai écrit deux jeux en fait, dont le premier c'était Acheron, qui est un jeu qui est d'enquête horrifique. Alors, la meilleure définition qu'on m'a donnée, c'est Hellraiser au pays de Jack l'Éventreur, ce qui n'était pas trop mal.
Ah,
je trouvais ça putain sympa.
Dit comme ça, c'est vendeur.
C'est un peu trop vendeur, je trouve, pour le jeu. Hein. Attention, quoi.
Commençons pas le troll tout de suite.
Et deuxième, c'est Wulin, hein. Donc, qui est un jeu qui est basé sur la littérature wuxia. Donc, c'est la littérature d'arts martiaux chinoises, en fait. Voilà, parce que c'est ma deuxième marotte, en fait, c'est la Chine.
D'accord. Ton premier jeu, tu avais créé quand ?
Le premier, il date de 2010.
D'accord.
Et celui-là, il date de 2013, je crois, ou 2014.
Oh putain, le mec, il sait même plus quand il a sorti son jeu, c'est n'importe quoi. Je sais pas où on est ici, finalement. Ok, bon, bah, on reviendra vers toi et ce jeu dès qu'on aura présenté ça. Dès que Satan nous aura présenté le jeu, et on parlait un peu plus du lore et du système. On va passer tout de suite au Meeple sur un plateau. Donc Gomelon va prendre le micro et va commencer par nous présenter le jeu apéro. Gomelon, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on appelle un jeu apéro ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la définition et la bonne définition qu'on peut avoir dans le monde du jeu ?
Alors, je ne sais pas si c'est la bonne définition. En tout cas, ça va être la mienne. Et puis après, vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord.
Oui, bien. On a déjà eu des critiques sur le jeu allemand, à l'allemande. Donc, on va pas...
Donc, pour moi, un jeu apéro, c'est déjà un jeu qui se joue entre amis qui ne sont pas obligatoirement des joueurs spécialisés de haut niveau. C'est un jeu qui est rapide, simple à aborder, pas trop de matériel, et ça peut se jouer grosso modo sur un coin de table.
D'accord, donc c'est le truc qui se joue en apéro, c'est-à-dire on est en train de boire un verre et on mange des cacahuètes en même temps qu'on joue. Quoi.
Comme le 421 en fait. C'est ça que tu...
bah, le 421 peut effectivement être considéré comme un jeu d'apéro, oui.
Je me suis sûr que ça va être le premier jeu apéro du monde.
Ne me crie pas dessus, tu posais une question, c'est tout.
Ok, donc le jeu apéro, c'est le jeu qui se joue sur un coin de table, en même temps qu'on joue entre amis, on discute, on fait autre chose, on boit un verre, et finalement on n'a pas besoin d'écouter des tonnes de règles pour y jouer. On a juste besoin d'un coin de table pour y jouer, lancer des dés ou bouger des pions vite fait entre deux cacahuètes et deux verres de whisky.
Ouais, en général, on se marre pas mal.
D'accord, ok.
Ouais, c'est un peu ce qu'on appelle aussi un jeu d'ambiance. Souvent, maintenant, on ne dit pas jeu d'apéro, on dit plutôt jeu d'ambiance.
Je trouve que ça fait un peu hypé, jeu d'ambiance, ça fait trop jeu de rôle, mais pourquoi pas, au final.
Oui, un jeu d'ambiance, non, pas trop, parce que jeu d'ambiance, justement, c'est quand tu retrouves une atmosphère différente. Là, t'es pas obligé de te concentrer sur le jeu quand t'es en train de jouer à...
Ouais, comme on l'a vu, quand on joue à Zombie Dice, t'es pas obligé de regarder que ce que fait l'autre pour pouvoir jouer, finalement.
C'est ça le principe, non ?
Ok, jeu apéro, t'as fait une petite sélection de jeux apéro qui sont soit plutôt connus, soit plutôt sympas. Vas-y, commence dans le désordre par celui que t'as envie.
On va commencer vraiment dans le désordre. On va commencer par peut-être le plus simple, celui qui demande encore moins de temps de cerveau. Hein. Zombie Dice, d'ailleurs. Hey, t'as vu
Temps de cerveau, jeu de mots.
Voilà. Alors, Zombie Dice, c'est créé par qui ?
Alors, c'est un jeu de Steve Jackson que tout le monde connaît via, entre autres, Munchkin, quand même.
Oui, il a pas fait que ça, mais il a fait...
Il y a des tas de livres dont vous êtes le héros, en fait.
Oui, aussi.
Exact. Donc là, Zombie Dice, c'est un jeu de dés, comme on le dit, avec des représentations sur chaque dé. Il y a, entre autres, des cerveaux. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à récolter... 13 points de cerveau, et il faut éviter de tomber sur des explosions, et voilà, on jette, on rejette, et on va jusqu'au bout pour essayer de faire un maximum de points.
D'accord, donc on joue tous des zombies, chacun de tour on lance des dés, le but c'est de récolter plus de cerveau possible, on garde le nombre de cerveaux qu'on a fait, si on jette des dés et qu'on a au moins deux shotguns, c'est-à-dire deux explosions comme tu disais, on peut s'arrêter là et passer la main, mais on garde le nombre de cerveaux qu'on a mangé. Simple, rapide. Moi, je suis assez fan du jeu. À la base, ce que j'expliquais en off, c'est qu'il y avait une app qui était sortie sur smartphone et on pouvait jouer tranquillement dans le métro. Je trouvais ça fun, ce qui m'a poussé à acheter le jeu derrière. On y a joué un petit moment. Enfin, moi, j'ai joué pendant pas mal de temps. Je l'ai présenté au groupe.
On l'a déjà un peu testé. C'est tout simple et tout débile, quoi. C'est le sujet qui compte, quand même.
Oui, ouais, hein, voilà.
Ça serait la même chose avec des ampoules à mettre.
À visser, serait pas la même chose.
C'est moins drôle, voilà.
Ketrus, tu connais le jeu, évidemment, mais...
Ouais, bah pour moi, c'est un peu vraiment le jeu apéro, le stéréotype, en fait. C'est pas prise de tête, tu peux l'apprendre en 30 secondes et tout le monde s'amuse, en fait.
Ok. Nico, t'as déjà joué à ça ?
Non, j'ai jamais joué à ça, mais le principe de jeu apéro, en fait, existe aussi en jeu de rôle. C'est ça qui est rigolo. Il y avait Adventure Party et tout ça, c'est des jeux qui se jouent en 2 heures. Donc, pour les rôlistes, c'est quasiment rien. Bon, personnellement, ça m'amuse pas beaucoup, mais c'est sympa pour les initiations, les choses comme ça. Donc, c'est marrant que les mêmes concepts se rejoignent partout, en fait.
Ouais, évidemment. Ouais. Mais c'était quoi comme type de jeu ?
Il y avait Adventure Party. Je crois que les jeux comme Toons et tout ça peuvent se jouer en apéro. Ça veut dire que tu fais une heure et demie de partie. T'as même pas de personnage.
Si tu comptes la création de personnages là-dedans, ça fait plus de 2 heures. Hein.
Non, mais tout n'est pas un vrai jeu de rôle, donc
faut pas déconner, c'est pas un jeu.
Non, mais Zombie Dice, par contre, ouais, faut pas croire que tu vas initier des gens au jeu. Hein. C'est pas le but. Hein. Peut-être jeter des dés, mais ils vont pas jouer à ça.
Oui, voilà, oui. Derrière, faut pas abuser non plus. C'est vraiment le 4-21 amélioré, hein, pour le coup.
Oui, clairement, normalement, un jeu d'apéro, c'est 15 minutes, une demi-heure grand maximum.
Bah, là, c'est un peu le cas. Hein. Zombie Dice, en 15 minutes, t'as fait le tour et surtout, t'as fait 15 parties déjà, je pense. Deuxième jeu, qu'est-ce que t'as à nous présenter ?
On va parler de Timeline.
Oh.
Timeline de Fred Henry. Alors Timeline, c'est un gros succès. Hein. C'est donc Fred Henry, il faut se rappeler, c'est le créateur des bâtisseurs, de Conan, le jeu de figurines qui va sortir bientôt.
Oui, qu'on enfin, attend tous.
Qui a fait d'autres jeux comme Cardline d'ailleurs aussi, qui a une sorte de dérivé de Timeline. Mais à la base, il y avait Timeline, qui est un jeu qui est, il s'agit de reconstituer des événements. On a des petites cartes avec donc il y a différentes boîtes avec des différentes thématiques. Qui vont être des événements, des inventions, ça va être des événements historiques. Et le principe, c'est d'essayer de poser les cartes dans une frise chronologique. Enfin, une frise chronologique, ça signifie qu'il faut poser, grosso modo, est-ce que le radiateur a été inventé avant ou après le saxophone, par exemple. Voilà. Alors après, les événements, selon les thèmes et selon les personnes, automatiquement, on a plus ou moins d'affinités sur les, selon les thèmes. Moi, je vous dis tout de suite, les inventions et les découvertes, je déteste, parce que c'est tout le 19e. Je suis assez féru d'histoire, donc les événements, je préfère. Hein, et puis, c'est plus facile de poser l'apparition des dinosaures avant ou après le sacre de Napoléon. Et puis, ils ont fait des thématiques vraiment, vraiment plus pointues, comme musique et cinéma, qui est sorti en 2013, sport et loisirs.
Qui est très bon, d'ailleurs. Hein, ouais. Niveau cinéma, pareil. Musique, ouais. C'est un peu années 70, années 80.
Il est super dur, celui-là, je trouve.
Mais non, ça dépend.
Moi, j'aime qui ne suis pas super calé...
Je connais les films, bon, la musique moins, mais par exemple, les films, voilà, je connais bien, c'est vraiment intéressant. Pareil, je suis à fond dedans dans celui-là.
Ouais, voilà. Là, pour les spécialistes du genre, ils s'éclatent. Clairement, ouais,
clairement, oui, c'est vraiment un truc de connaisseur.
Je crois qu'il y a un Star Wars qui est sorti.
Justement, on en a parlé dans l'émission
Star
spéciale.
Wars, quoi. Je veux dire, déjà, savoir si Massacre à tronçonneuse est sorti avant le retour des morts vivants, quoi.
Oui.
Non, ça clairement. Vous parle pas, sérieux, quoi.
Mais merde. Non, mais effectivement, le timeline spécial Star Wars où il fallait reconstituer les trois films de la trilogie, pardon, pas la prélogie. On en avait parlé rapidement pendant l'émission de Noël. Je crois qu'il y a aussi eu un truc Cardlines Marvel, si j'ai pas de conneries.
Ouais. Non, enfin, si, il existe, mais faut l'oublier. Déjà, Cardlines, de base, enfin, tu me dis Gaumont, mais moi, j'aime beaucoup moins.
Cardlines est moins réussi, je pense, parce que déjà, on est sur des informations qui peuvent être un peu datées rapidement. Je pense sur la géographie avec la population, ouais. C'est super complexe quand même, faut avoir. Et puis, faut connaître, quoi. Après, tu fais un peu au pif. Alors que quand on est sur des thèmes historiques, enfin, qu'il y a des événements, déjà, techniquement, il y a quand même moins de doutes à avoir. Et puis, c'est vrai que tu disais Cardline sur Marvel, on est sur des informations qui sont... c'est pas officiel, quoi.
Incompréhensible.
Oui, c'est mal designé, ouais, je suis d'accord.
Ouais, clairement, oui. Savoir que Spider-Man est plus fort que...
Mais franchement, il y a une catégorie quand tu dois classer les cartes, je ne comprends pas.
Ouais, c'est mal fait. C'est vraiment fait un peu mais à l'appréciation de l'auteur, plus qu'autre chose.
Et Cardline sur les animaux, c'est pareil, savoir que l'otari vit 3 ans de plus que la loutre. Ça m'intéresse moins de savoir si Jeanne d'Arc a été brûlée.
Faut mélanger, quoi, avec Wolverine, tu vois.
Oui,
quoi.
Clairement, savoir si Wolverine est plus fort que l'Otari.
C'est intéressant.
Timeline, pour revenir sur Timeline, je crois qu'il y a eu un gros jeu boîte Timeline Adventure, je crois qu'il s'appelle, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois en 2015.
Timeline Challenge, qui est sorti juste à la fin de l'année, hein, 2015. Et Timeline Challenge, c'est une sorte. Là, ils l'ont transformé en jeu de plateau par équipe, où il faut. Par équipe d'ailleurs, je te dis.
Non, c'est en solo. C'est en solo.
Et donc, le principe, c'est on se fait des challenges collectifs et où il faut. Donc, c'est une sorte de jeu de loi au départ, au centre. Et chaque case détermine un challenge. Il y a 5 ou 6 challenges différents qui existent. Où il faut déterminer avec un petit plateau individuel, peut-être un ordre de cartes qui va nous être indiqué, et on marque des points si on a un certain nombre de bonnes réponses. Est-ce qu'on met sur une grande frise chronologique, à quel endroit on met tel ou tel événement. Donc c'est une nouvelle façon de voir qui est plus plateau, qui est assez intéressante, même si personnellement, à titre personnel, je trouve qu'il y a il manque peut-être un ou deux challenges en plus.
Satan ?
Du coup, là, on ne parle plus de jeu d'apéro.
Non,
là, voilà. Mais justement, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que d'un jeu apéro, on passe à un jeu plus traditionnel.
Moi, j'ai Timeline, hein, j'adore, mais voilà, je suis pas passé à la version plateau. Franchement, il m'intéresse pas. Je préfère rester sur mon Timeline de base.
On en parlera sûrement dans une prochaine émission, j'arrête pas de le dire, mais il est assez cool, mais effectivement, il manque quelque chose pour qu'il soit vraiment intéressant pour un jeu de. Mais ce qui est sympa, comme disait Gonon, c'est qu'ils ont réussi à remixer un peu le jeu de base pour faire un truc plus consistant et à intéresser peut-être d'autres personnes à un jeu qui est peut-être un poil trop simpliste à la base. Mais je valide.
En tout cas, il marche très très bien, parce que là, on avait quand même à la 6e version différente, et chacune est rééditée, etc. Donc vraiment,
clairement,
le jeu
c'est clairement un jeu que tu peux vendre à n'importe qui, même si on n'est pas gros joueur de jeux de société à la base. Petit jeu apéro suivant, qu'est-ce que tu as ?
Crossing, qui est un jeu psychédélique, puisqu'il s'agit de cueillir des joyaux sur des champignons.
Normal.
Voilà. Donc là, bon, c'est un jeu qui joue jusqu'à 5 joueurs, 6 joueurs, je ne sais plus, qui se fait vraiment clairement en 15 minutes. En 15 minutes, c'est bouclé. Il s'agit de récupérer donc, des joyaux qui poussent sur les champignons. On pointe, hein, donc on pose les joyaux. On fait 1, 2, 3. Chacun pointe un champignon. Et celui qui arrive à être seul avoir pointé un champignon récupère les joyaux et les met dans sa réserve. Les autres, malheureusement, ils ont perdu un tour. Et à partir du deuxième tour, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on peut pointer un champignon, mais à lieu de pointer un champignon, on peut aussi pointer la réserve des adversaires. Donc, pour essayer de leur piquer leur joyaux. Dans ce cas-là, alors, après, on commence à essayer de protéger ses joyaux, etc. Donc, c'est un jeu qui est assez fun, franchement, qui joue très, très rapidement et qui peut jouer à peu près avec n'importe quel type de joueur, enfants, adultes.
Ouais, c'est assez mignon aussi. C'est un petit peu un jeu d'enfoiré, pour le coup, parce que tu vas commencer à faire une stratégie un peu plus... enfoiré sur aller voler l'autre.
Gomelon apprécie le jeu, déjà, c'est un signe.
Oui,
que,
hein, c'est un bon signe. Kétrus
sur le fait que Gomelon apprécie le jeu d'enfoiré.
Oui, complètement.
Oui, c'est vrai. Non, Crossing, ouais, c'est sympa, ouais. Franchement, ouais, ça répond aux critères, entre guillemets, du jeu d'apéro. C'est-à-dire, on peut jouer avec n'importe qui, ça va très vite. Les gens, il n'y a pas beaucoup de matériel, je pense que c'est important aussi dans les jeux apéro. Pas trop de matériel qui ne prend pas de place sur la table où tu poses tes cacahuètes et ta boisson, quoi. Et où les gens identifient très vite ce qu'il faut faire. Donc voilà. Et puis voilà, il y a un peu de stratégie, un peu de coup de... Pour pas dire le mot à faire, donc ouais, c'est cool. Ouais.
De quoi pas dire le mot de quoi?
Bah, je le dis pas, tu peux faire des coups de... Tu vois.
Voilà. Des coups d'enfoiré?
Ouais, c'est ça.
Ah, ok, d'accord.
Et il faut savoir que c'est un jeu qui vient d'Asie, hein, donc les Asiatiques sont très très forts pour ce type de jeu rapide, efficace et tout ça. Ouais, le jeu s'appelait Xing, il sortait en 2013, et donc ils sont mis à 3 éditeurs français pour le rapatrier en version française. Hein,
oui, parce qu'il y a des petits champignons avec des petits diamants, c'est 3 éditeurs au moins.
Bah, ouais, mais bah, écoute, oui. c'est étonnant, mais c'est Monster Games... Space Cowboy et Cocktail Games. Donc Cocktail Games, qui est un éditeur spécialiste en jeu d'apéro.
Ça se sentait, je crois, dans le nom.
Voilà, ouais. Et donc, voilà, ils sont mis vraiment à trois. Ils ont tellement flashé sur le jeu qu'ils ont décidé de l'éditer ensemble parce que les trois le voulaient. Autre jeu, alors on peut parler de Double, qui est quand même un des grands classiques du jeu d'apéro. Hein. Alors lui, c'est un des jeux les plus vendus, voire peut-être le jeu le plus vendu au monde, en tout cas un des jeux les plus vendus.
Alors, c'est le jeu que je ne connais absolument pas, donc vas-y, décris-moi les règles.
Ah non, tu ne connais pas du tout.
Je ne savais pas du tout. Alors... Je vois toujours la boîte et je me dis, oh, putain, ça a trop de couleurs, ça va former un peu
bizarre. Est-ce qu'on peut parler de jeu d'apéro? Parce que mes enfants jouent à Double depuis quelques années, en fait, et ça m'étonnerait, enfin, qu'ils boivent.
Ils ne boivent pas de coca.
Non, mais en fait, c'est des jeux que les enfants jouent aussi à la fin de l'année scolaire, tu sais, quand ils font leur dernière journée, ils ont le droit de jouer et tout.
Parce qu'on l'a dit, en fait, dans la définition, finalement, le jeu apéro, c'est un truc qui est simple en règle, donc qui va sûrement convenir à 90% du temps à des enfants aussi, donc sur lequel les adultes peuvent jouer avec les enfants.
Alors là, faut savoir que Double, c'est pas un auteur, c'est vraiment un inventeur, parce que à la base, c'est un logarithme. Le gars qui a créé le jeu, il s'appelle Denis Blanchot. Il a inventé un logarithme parce que le principe, c'est d'avoir 55 cartes. Chaque carte a 8 symboles différents, mais il n'y a qu'un symbole qui correspond à une autre carte.
D'accord.
Voilà. Donc, du coup, il faut créer un logarithme pour arriver à faire que les 55 symboles soient répartis équitablement, etc. Cartes, ouais. Et qu'il n'y ait qu'un seul symbole qui soit commun à deux cartes différentes.
D'accord, ok. Alors, c'est assez complexe pour le coup. Il y a plusieurs jeux qui se rapportent sur le même thème. Et donc, le but du jeu, c'est quoi?
Alors, justement, du coup, il y a plein de mini-jeux, on va dire, dedans. Donc, un des basiques, c'est d'essayer de récupérer un maximum de cartes. Donc, on a tous une carte en main. Et il faut essayer de retrouver parmi celles des autres le symbole commun avec la carte de chacun des autres. Et donc ça, c'est un jeu de rapidité parce que les symboles sont reconnaissables, mais sont plus ou moins petits, etc. Et quand tu as les deux cartes l'une à côté de l'autre, eh ben, c'est quand même super complexe d'arriver à trouver le symbole qui correspond à la carte de l'autre. Et c'est un jeu de rapidité très très fun où on essaye vraiment d'essayer de récupérer, de retrouver le plus facilement les familles.
D'accord. Ça me fait penser à un autre jeu du même genre avec un fantôme et des objets qu'on doit récupérer et suivant le type
bazar
de
jeu. Bizarre.
Oui, le bazar du bizarre, ouais, ça, c'est ça, ouais. Qu'on avait joué. Et que je trouvais ça assez fun, mais qui était finalement ultra complexe.
Bazar du bizarre, un peu plus complexe.
Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Mais pour le coup, ça me fait vraiment penser à ce genre de choses. Et est-ce qu'on on est toujours dans le jeu apéro là-dedans? Parce que finalement, c'est un jeu qui demande énormément de concentration sur l'instant, non?
Non, c'est vraiment un jeu d'apéro parce que. Enfin, c'est un jeu super fun. C'est-à-dire que quand tu joues. T'es surexcité, tu rides partout, enfin tu déconnes, tu rigoles.
Putain, t'en as rien à foutre quand tu perds surtout quoi. Je veux dire, c'est.
Oui, clairement.
Non, c'est un super jeu. Quand je l'ai acheté, après je l'ai offert à plein de gens. Je l'ai conseillé à plein de gens. Les gens à qui on a joué l'ont acheté pour leurs enfants d'abord. Ce qui est marrant parce que c'est un jeu qui est typé enfant. Et en fait, tu joues avec tout le monde, quoi. Les gens, au début, ils regardent qu'est-ce que c'est, et tout le monde se prend au jeu. Et comme dit Gobelon, à la fin, t'es super excité, t'es hyper concentré, tu veux pas rater le symbole qui est identique. Et c'est à la fois un jeu apéro que tu peux faire rapidement parce que c'est fun, c'est convivial. Et c'est aussi un jeu que tu peux jouer n'importe quand, quand t'as 5-10 minutes avec ton gamin, au goûter, tu vois, genre de choses, quoi.
Ouais, enfin, même les personnes âgées, en fait, peuvent jouer à Doodle, quoi, c'est rigolo.
Tout le monde, ouais.
Et comme disait Kétrus, tu te concentres, mais en fait, c'est pas pour ça que tu vas mieux repérer les symboles. Faut pas croire.
Ah oui, bah
ça
bien sûr.
Plus, en fait. Je veux dire, quand il y a biberon, t'as un biberon, machin, mais ça bouge vite parce que quelqu'un a pris la carte et du coup, tu es vite perdu.
D'accord.
Et tu peux pas retenir tous les symboles, il y en a trop. Donc, du coup, en fait, n'importe qui peut jouer et voilà. Enfin, moi, je fais pas ton cours, n'est-ce pas, Nico?
Alors, non, c'est juste pour te dire, pour la petite anecdote, c'est le seul jeu, quand on a créé la boîte à chimères, qui a été emprunté plus de 35 fois, même par des gens qui faisaient pas partie de la boîte, en fait. Donc, je suppose qu'il y a quelque chose, quelque part, dans ce jeu. Qui est assez attractif.
Ils ont mis de la drogue sur
lui. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais.
Juste une petite chose, c'est que le jeu se renouvelle beaucoup parce qu'il y a 4 petits jeux dedans. C'est-à-dire que
il y a des variantes.
Il y a 4 variantes qui existent, qui proposent, qui permettent soit de récupérer des cartes, soit de s'en débarrasser. Mais le principe, c'est toujours la reconnaissance, la rapidité.
D'accord. Le jeu existe depuis quand? Pour rapidement, pas
c'est
forcément
vieux,
avoir
c'est
le.
C'est vieux, ça, un Doodle.
D'accord, il me semble avoir vu depuis des années à chaque fois que je vais dans ma boutique, mais finalement je suis pas sûr d'avoir une date en tête. C'est pas très grave.
Question, je n'en sais strictement rien.
Depuis la création de l'assaut déjà, donc ça fait 6 ans.
6 ans, 7 ans.
6 ans.
Ouais. C'est édité par qui? C'est Asmodée, ça, non?
C'est Asmodée, ouais.
Ouais, d'accord.
C'est 2009.
2009, ouais, c'est pas si vieux que ça finalement. Qu'est-ce que t'as encore dans ta besace?
Alors moi, mon jeu à moi de préféré que j'adore, sur lequel j'ai dû faire une cinquantaine de parties l'année dernière, ah. Skull.
Ouais, ça c'est le jeu.
Le jeu de.
De qui?
Bah de Gobelon.
Ah, de Gobelon, non, mais je crois
on
que
tu vas dire le mot alors. Le
jeu d'enfoiré pur et dur.
Voilà, c'est ça.
Tu veux dire qu'on va remplacer tous ces mots-là par Gobelon maintenant?
Moi je pense que ça marche.
Ouais, Gobelon va devenir une insulte, ça va faire bizarre au 20 ans, mais bon.
Ouais, merci.
Ah, jouer Skull avec lui, vous allez comprendre.
En fait. Ouais. Non, Skull c'est vraiment. Bah, tu vas expliquer, mais c'est vraiment le jeu qui fait toutes mes débuts de soirée à tous les niveaux. Enfin, dès que je fais une partie entre potes, que je fais une soirée de jeu avec des potes, c'est le premier jeu auquel que l'on va s'en servir, hein, pour le coup. Vas-y, explique-moi le principe.
Donc Skull, anciennement Skull and Roses, édité chez les éditions lui-même d'Hervé Marly. Donc c'est simple, c'est d'une simplicité absolue. C'est un jeu de bluff. On a chaque joueur a 4 cartes, 3 avec une fleur, une avec un crâne. Chacun pose une carte, choisit évidemment, on choisit une carte, on la pose devant soi. Et puis après, on en rajoute ou on commence les enchères. Et lancer les enchères, c'est de dire combien autour de la table on peut retourner de fleurs. Et le principe, c'est que justement, parfois, vous allez faire croire que vous voulez prendre la main pour pouvoir retourner vos fleurs parce que vous avez mis des fleurs. Et parfois, bah, vous avez mis un crâne. Et donc, c'est une question de piège. C'est du bluff absolu. On est dans la synthèse vraiment du bluff. Les règles sont très, très simples à expliquer. Mais par contre, attention, il faut les respecter vraiment à la ligne. Hein. Elles sont très, très courtes, mais on ne va pas essayer d'aménager des variantes, etc.
Tu le dis, c'est une réédition. La nouvelle édition est plus sympa que l'ancienne. Ça, c'est pour l'anecdote.
Graphiquement, c'est Tom Verschek qui a fait les illustrations. Moi, je les adore, effectivement.
D'accord. Qu'est-ce que je veux dire sur Skull? J'ai oublié, c'est pas grave, je le couperai au montage.
C'est comme un Perrudo, mais sans le hasard, en fait. Et c'est pour ça que j'ai jamais, je trouve rigolo comme jeu, mais pas plus que ça, en fait.
Ah, tu préfères le hasard?
Bah, ça change pas.
Il y a
pas.
Des jeux que tu aimes, Nico?
Non, moi, je suis un auteur de jeux de rôle, si tu veux, je suis pas un créateur, donc du coup, maintenant, je m'abaisse de temps en temps à faire des jeux de plateau.
Mais juste pour le dire, donc en fait, c'est un poker allégé pur et dur.
C'est vrai que
poker menteur, en fait. Le poker menteur, c'est ça avec les dés, non? C'est des paris aussi sur ce que va.
Le Perrudo, ouais.
Le poker menteur, ouais. C'est avec des cartes aussi. Hein.
Ah, je connais la version avec les dés, moi, en fait.
Donc, Skull, ça fait l'unanimité ici?
Bah ouais.
Oui, j'aime bien.
Tu sais, c'est le genre de jeu, tu l'amènes, les mecs te font quoi? C'est quoi ce truc-là? Ouais, bon, ok, on va essayer pour te faire plaisir, et puis après, tu joues 2 heures, quoi.
Ouais, clairement, tu t'enchaînes les parties. Ce que j'adore avec ce genre de jeu, c'est que même les personnes qui regardent un, peuvent s'éclater, parce qu'ils peuvent commencer eux-mêmes à parier en disant « je suis sûr, moi je serais allé là, j'aurais eu raison ». Mais pour le coup, tu fais un tour ou deux tours de jeu, les gens comprennent instantanément ce qui se passe. Quoi. Ils n'ont pas besoin d'avoir les règles en tête ou de connaître les règles pour pouvoir y jouer. Ils peuvent s'installer et jouer.
T'as quand même besoin souvent de quelqu'un qui lance le jeu.
Oui.
Souvent c'est Gomelon. C'est genre oh, « arrêtez de jouer les petites bites, allez-y, misez, machin, etc. » Et après, les gens se lancent. En fait.
Ouais, ouais,
et après, c'est... tout le monde se fait... blousé parce que voilà quoi, mais
parce qu'il y a Gomelon à table,
voilà,
il pose toujours
voilà, train, quoi. Il est toujours là en train de pousser les gens et tout, mais en fait effectivement il faut toujours au moins quelqu'un autour de la table qui est un peu tu...
donc ouais, qui est un peu la grande gueule du truc et qui va permettre de faire oui je te vois de me regarder comme ça avec tes yeux ah, genre
Gomelon le fait très très bien hein. C'est ah, oui, sa clairement, spécialité oui. Ça hein.
Mais il faut faire faut Skull c'est purement validé de ma part et c'est un jeu qu'il faut avoir dans sa ludothèque purement et simplement.
Les fans de poker l'adorent généralement et c'est un excellent jeu à la fois pour découvrir un groupe, pour les gens qui ne se connaissent pas, pour se découvrir avant un jeu justement, avant d'autres jeux, c'est top parce qu'on voit un peu le niveau des uns et des autres, qui bluffe pas, qui sait mentir, qui ne sait pas mentir. Et puis après, quand tu joues avec des gens avec qui tu es habitué à jouer à Skull, alors là, ça devient on est dans le summum absolu.
C'est la méta dans la méta en fait. Tu commences à penser plus, ouais. Plus que nécessaire par rapport aux gens.
Non, mais t'as une espèce de duel de regard comme dans les vieux westerns. Tu regardes l'autre, c'est clair.
Ah là, je suis sûr qu'il bluffe, ouais. Putain, mais le gars il rire à côté, c'est bon, il bluffe, j'y vais.
Ou alors tu mets un crâne pendant 5-6 tours et puis d'un seul coup, le mec il se dit, il va remettre un crâne, c'est pas
ouais, mais il y a tout, c'est ça qui est. Enfin, on va passer rapidement après, mais il y a toute une méta dans le jeu effectivement de bluff et de pousser l'adversaire à dire non, j'avais raison, j'y suis allé, j'avais raison de le faire. T'as d'autres jeux dans ta besace, c'est fini ?
C'est bon, terminé.
T'avais quelques jeux à présenter, toi, Kétrus ? Tu nous avais rapporté quelques jeux avant de commencer l'émission, présente-les.
Ouais, ouais, il y en a des petits. Alors, c'est un petit jeu, c'est surtout pour les enfants, en fait, ça s'appelle Quatsu. Le bois de Kutek Quatsu, en fait. C'est un jeu de mots pour dire quoi dessous.
Oui, bien sûr.
C'est un jeu de memory, tout simplement. T'as un carré de 9 tuiles. Avec dessus soit une pierre, soit un champignon, soit une feuille, qui peuvent être de 3 couleurs différentes, bleu, jaune ou rouge. Et en fait, tu dois faire un chemin de 3. Donc en fait, tu vois, tu as le carré de 9 et tout autour, on met des noisettes. Et tu dois deviner ce qu'il y a en dessous. Donc si tu es en couleur, il faut que tu dises pierre, etc. Voilà, c'est un vrai memory. Et c'est super fun parce que tu peux jouer avec les tout-petits, ça ne prend pas beaucoup de place, les règles sont simples. Et tout à l'heure, on a fait un test tous les trois et on s'est bien marré parce qu'on n'était pas concentré, on n'arrivait pas à retrouver ce qu'il y avait en dessous. Quoi.
Ouais, 2 minutes après, tu as déjà perdu la couleur que tu avais retournée.
Voilà, donc c'est un petit jeu super sympa que j'avais testé à Paris et Ludique avec mes enfants et on a tout de suite accroché. Quoi.
Mais c'est vrai que c'est un jeu où les gamins foutent des raclées aux parents comme c'est pas possible.
Et donc voilà, c'est un jeu qui est très drôle, qui est très simple et tu te marres très vite. Quoi. Okay. Surtout quand t'as bu un apéro, quoi.
Oui, non, ça c'est un truc qu'il faut pas dire justement pour que les enfants puissent jouer. Ah non, ils ont pas besoin de ça pour gagner finalement.
Exactement.
Ok, bah ça fait pas mal de petits jeux. Je remettrai la liste sur le site pour faire ça un peu plus clair, parce que là, c'est vrai que ça fait une grosse besace de jeux, mais c'est que tous des jeux qui tournent dans les prix de 10-15 euros maxi, hein, en général, on va pas au-delà de ça. Peut-être Crossing, je crois qu'il est à 20 balles, mais finalement, c'est des jeux qui valent largement le coup et qui feront tous vos débuts de soirée de jeux de plateau, jeux de rôle, n'importe quoi, le temps que les gens se préparent et se mettent un petit peu dans l'ambiance. C'est clairement le genre de jeux qui sont joués 90% du temps autour de nos tables à nous, en tout cas.
On en a au moins 4 ou 5 chacun. Chez nous, non, Nico, t'en as ou pas? T'as rien?
Non, moi je suis snob.
Ah, mais putain, il va faire ça toute la soirée.
Tu joues au go, c'est ça?
Ah, c'est ça. Go, ouais. Seulement des trucs intellectuels, tu sais, où il faut réfléchir.
Ouais, d'accord. Ok, on va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission, la deuxième grosse partie de l'émission, à l'évasion rôlistique. Donc, Satan va prendre le micro pendant un petit moment, il va nous présenter
l'aristocratie du jeu, en fait.
On y arrive, voilà, le côté, le summum, ce que font les vrais joueurs quand ils ont arrêté de jouer au jeu de plateau, le jeu de rôle, donc, c'est ça.
Et la révolution arrive.
Voilà. Donc vas-y, Satan, libre à toi, présente-nous le jeu de Nicolas Henry, on va voir si il te met une bonne note à la fin.
Alors, monsieur Nicolas Henry, donc déjà créateur de Acheron et surnommé El Padisha.
Oui, on peut dire
voilà,
ça.
Non, c'est juste pour préciser, comme ça, c'est El Padisha quand même, c'est pas n'importe qui. A donc pondu Wulin, qui est sorti chez Gamefu Éditeur. C'est les chroniques du pinceau et de l'épée. C'est-à-dire qu'en fait, il a donc sorti un jeu de rôle basé sur... Alors moi, je pensais que c'était sur mes bons vieux films de kung-fu d'autrefois. Enfin, du karaté chinois, en fait. C'est comme ça que j'appelais ça quand j'étais petit. Tu sais, quand j'étais petit, j'appelais ça comme ça. Enfin, désolé. Et non, il y a le côté... Quoi ?
Non, vas-y.
C'est bon. On va pas commencer à faire un cours de réalisme, s'il vous plaît, messieurs.
Surtout pas avec Wulin.
Voilà, surtout pas avec Wulin. Donc voilà. Il y a déjà eu d'autres jeux dans le même genre, hein. J'ai connu Chin, qui était aussi un très très beau.
C'était ma Némésis.
C'était, ouais. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir parce que pour avoir testé le jeu, enfin, en fait, j'ai très peu testé. Le bouquin était magnifique, t'étais vraiment dans l'ambiance, etc. Les règles n'étaient pas à la hauteur, on va dire.
Ouais, il y avait un problème sur la règle.
Il y avait un problème sur la règle, etc. C'était pas la même époque, hein, monsieur Henri, vous avez donc changé d'époque pour.
Non, en fait, l'antiquité qui est prise dans le Chine, en fait, elle correspondait mieux à ce que voulait mettre l'auteur dedans. Ça veut dire que c'était des grands conflits avec des grandes armées, des espèces de trucs tragiques et tout ça. Et le récit d'aventure, en fait, de cap et d'épée à la chinoise, ça se prête mieux sur un peu plus tard, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi une époque.
Le 12e siècle, hein, c'est ça ?
Ouais, 11, ouais. Ça tourne autour du 10e et du 12e en fait.
Ok, bah, bref, vas-y, continue. Donc je reviens. Donc, moi, le jeu de rôle, en fait, bah, je l'ai testé hein, plusieurs fois. J'ai adoré.
On l'a testé.
J'ai adoré. Enfin, Ketrus,
aussi, hein, t'as testé. Ouais.
C'est l'approche, en fait. L'approche du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur justement. Moi, c'est l'image que j'ai retenue du livre. C'est vous imaginez des vieux chinois qui sont en train de boire leur petit thé trop chaud, il pleut dehors, ils sont dans une taverne. Il y en a un qui commence à raconter la légende de, bah, je sais pas, Feng Shui le boiteux ou quoi que ce soit, en fait. Et donc, on joue ces personnages de légende qui doivent construire leur légende. C'est-à-dire que quand vous créez votre perso, vous partez sur un truc tout simple. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et, c'est Karak. Et après, vous allez créer donc, les éléments de la légende, c'est-à-dire ce qu'on raconte sur lui. Alors, c'est le joueur qui les crée, donc c'est vraiment drôle, en fait.
Je crois que c'est un des jeux sur lequel j'ai pris autant de plaisir à créer le perso qu'à jouer, finalement, derrière.
Ouais, ouais, il y en a qui carrément, ils veulent attendre de passer chez eux, de réfléchir une semaine pour pouvoir sortir les vraies définitions de ce qu'on va raconter. Donc, en fait, voilà, vous avez, bah, je sais pas, votre petit épicier chinois tranquille. Sauf qu'on raconte qu'en fait, ses nouilles, je sais pas, sont les meilleures de la Terre ou qu'il est capable de digérer tout et n'importe quoi. Enfin, bref, vous choisissez 5 ou 6 définitions, enfin, de légendaires comme ça. Et au cours du jeu, c'est vous qui allez donc changer ou amplifier ce côté pour arriver à faire des choses légendaires qui font de vous des héros de légende, que les gens racontent votre histoire dans les tavernes, quoi.
D'accord, donc au final, on est sur le... Enfin, je vais balancer un titre de film et je sens que je vais me faire trucider juste après, mais on est dans le Tigre et Dragon, quoi.
On est vachement dans le Tigre et Dragon, sauf l'époque, en fait.
Il y a même une règle Tigre et Dragon, en fait, dedans. Parce qu'il y a voilà. Aussi le concours de d'ego, pour rester poli. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que la baston, hein. C'est pas que dans les 36 chambres de Shaolin où on va prendre le Kung Fu pour taper les gens. Il y a cette partie-là. Il y a aussi les gens qui courent sur les murs et qui laissent pas de traces quand ils courent sur la flotte, enfin, qui marchent sur l'eau, tout ça. Mais il y a aussi ce côté de, voilà, on peut arriver et il y a un... Je sais pas, on voit un adversaire, quelqu'un qui est à peu près à notre niveau, voilà. On peut commencer à faire ce concours du tigre et du dragon, en fait. Tu veux raconter, Nico ?
Alors, en fait, le tigre et dragon, c'est une expression chinoise, en fait. Ça veut dire, c'est le tigre, c'est celui qui se montre, en fait, le talent qui se montre. Et le dragon, normalement, c'est le dragon accroupi. C'est d'ailleurs le titre anglais, je crois. Ça veut dire que c'est des talents cachés. Ça veut dire que tant qu'on les a pas secoués, ils vont pas sortir. Et donc, du coup, normalement, le tigre, c'est le joueur qui provoque, un autre personnage, et le dragon c'est celui qui doit montrer qu'il est à la hauteur de, et donc c'est des paris normalement en plein jeu, on provoque quelqu'un sur un défi particulier, ça peut être n'importe quoi en fait, ça peut être se battre pour une théière ou pour un bol de nouilles.
J'aime bien l'image de tu tapes sur la table et tous les vols, enfin tous les bols remplis de thé ou de soupe s'envolent en fait, et l'adversaire va se relever et essayer de les rattraper un par un, c'est pour montrer qu'il est plus fort que toi.
C'est ça, doit faire une surenchère en fait jusqu'au moment où tous les bols pètent, où il y a un troisième larron qui dit ça suffit les gars parce que vous commencez à nous casser les pieds, ou alors il y en a un qui montre vraiment sa supériorité dessus. Donc là il n'y a pas de danger létal pour les personnages, c'est-à-dire qu'ils meurent pas, ils n'ont pas le droit de se blesser ni quoi que ce soit. Mais par contre ils perdent énormément en réputation, qui est peut-être plus important que la vie du personnage en fait.
Voilà, donc nous on a, enfin bah, Zef et Ketrus, vous étiez là, la partie qu'on a fait, c'était quand même, vous avez fait un concours pour lancer vos nouilles sur un méchant pour l'humilier quand même, dans son dos, et vous avez tous en fait mesuré pour essayer de rattraper la nouille de l'autre pour que ce soit la vôtre qui...
Alors, ouais. Non, moi je ne lance pas de nouilles, c'est parce que je jouais un pacifiste, donc je suis contre la violence, et donc je voulais pas qu'il lance sa nouille sur ce pauvre R, ce vagabond à qui on offrait le couvert, tu vois.
Enfin voilà, donc le principe c'est qu'on n'est pas obligé de jouer des combattants, hein. C'est même si c'est basé sur ce côté, il y a les moines Shaolin, il y a les guerriers du comment on appelle ça, des lacs et des
forêts, et des rivières, en fait, des rivières. C'est les parias,
voilà, il y a vraiment tout, on peut faire la courtisane, le vieux chinois exorciste à moitié bourré, etc. Enfin, il y a vraiment tout dans cet esprit là et après vraiment c'est le joueur qui choisit dans quelle direction il va orienter son personnage.
D'accord,
voilà.
Et au niveau du système de règles ?
Alors, le système de règles, bon, alors c'est des D8, ce qui est assez rare.
Le dé le moins utilisé,
le dé le moins utilisé,
avec le D12.
Oui,
je pense que le D12 est plus utilisé que le D8 encore, mais bref. Oui,
mais Pourquoi aussi ?
Alors oui, j'y reviens. Donc on prend que des D8, donc il faudra en acheter quelques-uns. Par contre, en fait, c'est D8 parce qu'il y a le... Comment ça s'appelle, Nico ?
En fait, c'est la numérologie chinoise qui fait que le 8, un chiffre sacré, enfin béni, ça représente la perfection, la plénitude. Et dedans, ça permet d'avoir un 4, qui est le chiffre de merde.
Parce que c'est l'homonyme de la mort.
Ça se prononce pareil que mort. Les gens qui font du japonais, je ne dirais rien sur les japonais en plus, mais ça se prononce pareil que mort. Et au Japon, c'est pareil.
Bon, bref, oui, c'est juste pour dire que monsieur El Padisha, quand même, donc il parle chinois couramment, c'est pour ça que je lui demande.
Ouais, mais il se la pète de ouf.
C'est l'aristocratie du jeu.
Voilà. Non, mais sincèrement, c'est pour ça que je lui demande en fait en direct.
Il n'y a pas de problème, je trouve ça intéressant.
J'ai peur de dire une connerie, etc. Mais bref, voilà. Donc, voilà, un autre détail aussi dans le jeu, c'est moi j'ai beaucoup aimé, c'est la règle du souffle. C'est-à-dire qu'en fait, pour reprendre l'esprit de ces vieux films de Kung Fu, où en fait il y avait toujours ce geste parfait, où tu avais le petit moine qui devait s'entraîner pour frapper 400 fois sur une planche de bois pour faire le geste parfait. T'as la règle de souffle, c'est-à-dire que quand on lance les dés, si on fait trop que le... En fait, c'est le joueur déjà qui choisit son niveau de difficulté. Parce que c'est à lui, s'il veut construire sa légende, il faut qu'il fasse des trucs de ouf. Donc il faut qu'avant de mettre un petit coup de poing, il écrive le fait qu'il saute sur une chaise qui va faire un triple saut périlleux pour rebondir sur la lance du monsieur ennemi, tu vois, pour arriver et mettre 3 coups de poing sur ses adversaires. Donc il choisit la difficulté, et après, s'il fait trop, en fait, il perd des points de souffle, c'est-à-dire qu'il s'est trop fatigué pour faire ça, voilà, ou il a trop poussé sur son physique. Donc en fait, il va s'affaiblir au fur et à mesure.
Alors qu'il a réussi son action.
Voilà. Et le but, c'est quand même d'arriver à faire le geste parfait. Là, on en revient vraiment, ouais, voilà, je reprends toujours cet exemple, mais du moine Shaolin, là, tu sais, qui a fait les 36 chambres, qui a travaillé son coup et son kung-fu pendant des années, etc. Enfin voilà, il entre vraiment cet esprit-là où... La calligraphe qui met tout son chi en fait dans le dessin, qui représente des choses importantes et qui donne des bonus en fait aux autres. Mais c'est vraiment vraiment bien fait quoi.
D'accord. Voilà. On peut juste revenir sur le système du D8 parce que j'aime bien la variété en fait du truc et ce que ça apporte. C'est-à-dire que le 8 va te permettre de choisir ce que tu veux là-dedans en fait. Donc quand t'as une difficulté, tu mets ta difficulté je sais pas à 25 par exemple.
Alors ça va être à 24 mais par exemple. Ouais. Bah, alors, en fait quand on fait un 4, il compte pour rien parce qu'il est pas bien, il est méchant. Bouh voilà. Et quand on fait un 8, le 8 peut prendre une autre valeur. Voilà. C'est-à-dire que bah, je sais pas, vous avez 4 dés 8 à lancer, vous lancez, vous faites un 3, un 2, un 4 et un 8. Le 3 et le 2, bah, vous les comptez, vous les additionnez. Le 4 compte comme un 0. Et le 8, bah, en fait, vous regardez par rapport à la difficulté que vous avez choisie. Bon là, 25, non, mais je veux dire, si jamais vous voyez que votre 8, ça va dépasser votre score pour éviter de perdre du point de souffle, bah, le 8, vous allez dire qu'il compte 6, et puis vous arrivez pile poil à la bonne valeur. C'est-à-dire que vous avez fait un geste parfait, avec une technique parfaite, et on va parler de vous. Et votre renommée va augmenter.
Donc, dans un sens, en fait, on diminue un petit peu le côté hasardeux du lancer de dés pour l'ajuster à ce qu'on veut faire par rapport à la difficulté, finalement.
C'est vraiment un truc qu'on a bricolé, parce qu'au départ, je voulais absolument ce truc du chiffre parfait, etc. Et je me suis aperçu que ça tenait pas la route avec trop de dés à jeter. Donc, il fallait que je trouve une astuce pour ça. Et en fait, ça s'est imposé après, quand on a recherché avec... Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur le système, c'est Jérôme Larré, le gars qui a fait Tenga. Le seul défaut qu'il a, c'est que... Il aime bien les japonais, en fait.
Oh merde.
Mais
non, on va arrêter avec ça.
mais voilà, en fait, il fallait trouver une astuce. Et c'est celle qu'on a trouvée le plus mathématiquement qui tenait la route. Parce que moi, je suis vraiment nul à faire des statistiques ou des trucs comme ça.
D'accord. Juste un mot sur le bouquin en lui-même, alors qui est très sympa. Il y a une belle illustration hein, dessus.
Alors, non, là, ça va être moins sympa. Donc ouais, le livre, il est joli quand même. Hein. Il n'y a pas à dire, voilà. Il est classe, enfin surtout quand il est dédicacé par l'auteur, mais ça, ah bah oui, quand même.
Aristocratie voilà. Du jeu.
Voilà, toujours. Par contre, je dois dire, Nico, que je suis hyper déçu. Parce que autant on commence par déjà des règles très simples qui tiennent sur 4-5 pages, on va dire, c'est parfait. Tout le reste après, ça commence à devenir beaucoup plus difficile, quoi. La mise en page n'est pas terrible.
Ouais, c'est le gros reproche que je fais.
Des coquilles, il y a des. Alors déjà, t'es pas aidé, c'est clair, quoi. Parce qu'il y a des passages où en fait, t'as pas le titre. Tu passes d'un chapitre, hop, t'as l'impression que tu vas continuer la lecture, alors qu'en fait, ça passe à autre chose. Il y a l'ordre aussi des chapitres, je trouve pas ça terrible. Parce que par exemple, on parle des arts martiaux, après, on va parler des trucs d'alchimie, enfin, des différentes potions, etc. Et après, on va passer à des choses beaucoup plus importantes. Alors, comme on en parlait avant l'émission, tu disais qu'il y a des règles qui sont facultatives. Le problème, c'est que des fois, elles sont posées avant des trucs qui sont indispensables pour le MJ, quoi. Genre l'ambiance, comment mettre comment bien gérer l'époque, etc. Et en fait, ouais, il y a beaucoup trop de règles supplémentaires. Enfin, ouais, vas-y.
Ouais, non, en fait, là-dessus, t'as raison, ça vient d'une erreur de... Enfin, c'est mon erreur, en fait. C'est que j'ai pas voulu... À un moment, la première mouture du jeu, elle était super classique. tu reprochais les moutures de, comme Cheat par exemple, qui sont carac compétences, etc., qui sont des systèmes qui sont un peu vieux. Et au début, le premier jeu, il était vraiment fait complètement là-dessus. Après, je suis passé au narrativiste, ce que ça s'appelle narrativisme maintenant, c'est le truc où tu fous les règles dehors et puis tu laisses faire les joueurs. Et j'ai pas réussi à passer le pas entièrement, donc j'ai rajouté des trucs de peur que les joueurs s'y retrouvent pas. Et en fait, ça, au final, ça alourdit le jeu, ouais, clairement. Donc ouais, on peut les supprimer, en fait, c'est pas un problème.
Alors c'est pas le problème de supprimer, c'est vraiment, donc, comme je disais, la base du jeu, là, ce que j'expliquais là, au début, on crée son personnage et après on choisit ses traits de légendaire, enfin, qui sont en devenir. Après, quand on passe à la phase... bon, après, il y a le yin, le yang et tout ça qui se rajoute. Hein, c'est vraiment le truc de... Et après, quand on passe, par exemple, à la création de son art martial. Alors là, je suis désolé, mais il y a un gros souci, c'est que si tes joueurs sont pas à fond dedans et qu'ils sont pas tous connaisseurs, je pense qu'il y a un gros problème, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, on prend un jeu où, imaginons, là, on serait une table de jeu de rôle, on jouera Donjons et Dragons. Tout le monde connaîtrait les règles.
Ouais.
Si un joueur a un souci sur sa feuille, tu vois, on peut toujours jouer pendant que le joueur d'à côté lui explique les règles, tout ça. Là, c'est pas possible.
Ah oui.
Là, quand tu commences à avoir des discours, enfin des phrases fleuries marquées, parce que attention, tu n'as pas genre mon point fait plus un dégât, quoi.
Ouais.
Tu dis que ton point est plus fort que, enfin, peut briser des montagnes ou que t'épée sente le lotus de la rivière. bah oui, mais tu vois, tout ça, je veux dire, c'est marqué sur ta feuille.
Oui, mais tu sais pas en termes de règles, c'est
voilà.
Difficile.
Alors toi, tu le sais parce que si c'est toi qui as créé ton perso, tu vois que tu connais bien les règles parce que ça fait plusieurs parties que tu fais tout ça, c'est bien. Donc, le MJ peut t'expliquer, mais en cours de partie, c'est pas ton voisin qui va te dire, quoi.
Ouais, bien sûr.
Il sait pas ce que t'as voulu mettre dans cette phrase-là, tout ça. Et ça, ça devient super complexe. Parce qu'en plus, l'art martial, c'est pas... Enfin, il est très très bien développé. Super bien fait, la gestion des différents coups, des différentes techniques, tout ça. Mais ça fait beaucoup. Et après, si tu commences à rajouter, bah, y en a un qui fait de l'alchimie. Donc l'alchimie interne, externe. Ça devient énorme, en fait. Ça devient vraiment beaucoup,
en fait,
beaucoup de règles.
Tu vas complexifier le jeu sur les règles. Et surtout sur les trucs qui sont pas forcément très précis. Enfin, précis en termes de
en
règles.
Fait, c'est parce que justement, c'est très précis. C'est très bien, en fait. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire l'alchimie pour un joueur, tu vois, un autre qui fait son art martial, tu vois. Faire toutes ces techniques, tout ça, quoi. Mais ça fait, alors c'est pire que Shadowrun en fait, tu vois, parce que Shadowrun quand même c'est chacun a ses propres règles pratiquement, là c'est un peu le même système, il va falloir que je me farcisse des trucs de ouf dans la tête pour pouvoir le dire aux joueurs, quoi. Et ça c'est un peu difficile en fait.
Et voilà. En fait il y a une autre solution qui consiste à faire que tu transformes tes arts martiaux exactement de la même manière que ton personnage principal, donc du coup ton alchimie elle peut tenir en deux lignes. Et en fait, effectivement, ouais, y a beaucoup trop de trucs que j'ai voulu mettre dedans absolument, je sais pas pourquoi, de manière un peu obsessionnelle, quoi. Et en disant faut qu'on rajoute ces éléments parce que je trouvais ça marrant en fait dans les romans. Et là, en fait, c'est vrai que ça pèse un peu. Mais on peut vivre sans, hein, c'est-à-dire qu'on peut les couper.
Au final, enfin, juste parce que là, ça, on commence à déborder un petit peu, mais au final, sur le jeu en lui-même, il est positif, négatif. Ça, tu
conseilles ? Il est positif. Ah, moi, j'adore. Franchement, au niveau de l'approche des films de genre, c'est celui que je préfère.
D'accord. Kétrus, bon, t'as fait des parties aussi, qu'est-ce que t'en penses finalement ?
Bah, moi je le trouve génial ce jeu, quoi. Enfin, c'est... Après, j'ai pas lu toutes les règles, mais.
Non, mais en tant que joueur, ton point de vue, en tant que joueur pur et dur.
C'est génial, parce que moi je suis un fan des films chinois d'époque, alors c'est pas forcément.
Le karaté.
De Chine.
Karaté de chinois. Non, moi quand j'étais petit, c'était du karaté de chinois, je suis désolé.
Non, c'est pas karaté du tout, non. On peut rien. Et moi j'étais bercé à ça quand j'étais petit, c'est pour ça que j'ai fait du kung-fu derrière et tout ça. Et. Moi, jouer à ce jeu, c'est un kiff total, quoi. Et puis, cet aspect narrativiste, comme tu dis, c'est hyper rafraîchissant. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'autres jeux de ce type-là, à part Western, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est génial. Ouais, moi, j'adore ce jeu, quoi.
D'accord. Finalement, moi pareil, hein, genre on a fait quelques parties ensemble, par ailleurs. C'est le type de jeu qu'on a peu, au final, parce que moi, j'avais déjà joué à Chine plusieurs fois. J'avais kiffé le style, côté vachement héroïque du perso qui peut faire vraiment n'importe quoi, qui peut courir sur les murs, ce genre de choses. Mais effectivement, là, il y a le côté création de perso et création de ce qu'on veut à l'intérieur du perso qui fait que c'est épique à souhait, quoi. Oui, Kétrus, si vous voulez encore
un truc. Il y a un autre aspect qui est hyper intéressant, et est-ce que c'est le jeu qui veut ça ou c'est toi qui nous l'a fait jouer comme ça, Satan, c'est on est des légendes en devenir, c'est ça, hein.
C'est écrit dans le livre,
c'est
Nico qui l'a créé comme
et
ça.
Et en fait, ça a l'air tout con comme idée, mais ça change tout. C'est aussi le côté, donc, en gros, ouais, on va pas mourir en fait, mais il faut qu'on écrive notre histoire, il faut qu'on écrive notre légende. Et du coup, tu le faisais vachement bien, Satan, quand tu nous l'as masterisé. Quand on faisait un jet de difficulté et qu'on devait choisir la difficulté, il me tauntait, quoi. Il fait « Ah ouais, tu fais un truc genre juste magnifique, quoi. »
Non, mais attends, okay, je précise, là, c'est dans le livre.
Ah voilà, bah, c'est génial, et je vais te faire perdre des points de réputation. Ah ouais, bah attends, je vais faire un truc.
Non, mais attends, mais je vais surenchérir, attends, moi je fais mieux encore.
Moi,
non,
je vais cuire mon eau, et puis ça va faire un dragon qui monte et tout ça. Et
tu peux partir dans tous les sens, c'est ça qui est génial. Mais pour le coup, c'est le seul. le truc le plus intéressant, mais c'est là où tu le reproche vient, c'est qu'effectivement, tu peux créer ce que tu veux derrière via l'art martial, ton art martial instruit, mais effectivement, ça rajoute énormément de trucs derrière qui vont devenir de plus en plus complexes.
Non, même pas. Comme, bah, déjà, là, on a, enfin, nous, quand on a fait notre partie, on a abordé très peu de, oui. de choses. Hein.
Ouais.
C'est juste que, non, là, je parle de la. Parce qu'on a, j'ai pas envie de louper, enfin voilà.
Oui,
c'est
pareil,
c'est parce que tout ce que t'as marqué dedans, Nico, moi j'ai envie d'en profiter en fait. Et là, ça devient compliqué, quoi. Voilà, il y a la listing des armes avec la description des armes, etc. Ouais, Kétrus.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, pourquoi pas, quoi. Et tous les jeux n'ont pas besoin, n'ont pas à être accessibles et tout facile à lire. Tu vois, ça peut être aussi un jeu qui prend encore plus de saveur dans la durée. Même si je suis d'accord, ça peut être compliqué pour le MJ, quoi. Mais allons pas forcément vers la simplification, et s'il y a vraiment trop de trucs, bah, peut-être que tu les exploiteras ou pas.
Au fur et à mesure des campagnes, enfin, en fait.
Pour moi, ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité, quoi.
Les armes, hein, techniquement, tu t'en fous parce que dans le jeu, elles n'ont pas d'importance.
Oui, tu peux aussi bien te battre avec des baguettes.
Mais ouais, mais c'est ça qui est la beauté du jeu, c'est que les armes n'ont aucune importance, et pourtant, j'ai lu tous les détails des armes, et je me suis imaginé avec un perso en me disant, je veux celle-là, quoi, tu vois.
Alors, ça change rien. Moi, je veux juste un pinceau, putain.
Alors, est-ce que c'est. Parce que je prends un bouquin dont on parlera sûrement un jour, le sourcebook Hellboy et le jeu de rôle, c'est que c'est pas qu'un jeu de rôle aussi, c'est aussi une espèce de bible de l'univers. Est-ce que c'est pas aussi, parce que certains jeux de rôle c'est ça, c'est pas que les règles, il y a aussi une bible, et tu l'utiliseras peut-être jamais dans tes parties, mais ça fait partie d'autres choses. Tu prends aussi plaisir à lire ce livre, même si c'est pas ça va pas forcément
ça va t'apprendre des trucs au fur et à mesure, comme Pavillon Noir, comme
ça me touche vachement, parce qu'en fait c'était vraiment le but de ce livre là, c'était vous intéresser, enfin intéresser les joueurs, etc., à d'autres horizons. Comme ça tu peux prendre, enfin tu t'aperçois qu'il y a quelque chose d'amusant à creuser de ce côté là c'est des univers qu'on malheureusement on n'explore pas beaucoup, y compris en littérature. En fait, la littérature de kung fu chinois, elle est très peu traduite. Alors qu'en fait, elle est en Chine, par exemple, c'est l'équivalent de la fantasy chez nous. C'est-à-dire que les gamins, ils bouffent ça, enfin, comme c'est pas permis. Ils ont des émissions de télé là-dessus. Il y a des conteurs qui racontent ça à la radio. Enfin, ça a des dimensions de malade. Et si nous, on s'amuse à ça, enfin, à s'intéresser à ça, je pense qu'il y a vraiment d'autres pistes à creuser, quoi. Vraiment.
Oui, ça sent, tu veux rajouter.
Donc, comme tu disais, en fait, culturellement, ouais, il est très intéressant. Après, je sais pas, peut-être.
Voilà, ouais, c'est le genre de.
Par rapport
de
jeu. Au, voilà. C'est pas au même niveau que Pavillon Noir, qui était très intéressant à lire aussi, parce que tu découvres tout le côté caché, etc.
Ouais, on en parlera de Pavillon Noir, c'est un jeu que je veux vraiment qu'on présente dans l'émission. On va arrêter là pour le côté jeu de rôle. Merci Satan pour la chronique.
Je t'en prie, Merci Nico de l'avoir écrit.
Eh ben Nico, justement.
Merci de l'avoir acheté.
on va passer à l'interview, qui va être peut-être plus courte que prévu vu le temps qui nous reste. On doit être presque à une heure d'émission là, mais justement dans le monde que tu as voulu choisir, pourquoi, enfin après Acheron qui était un jeu plutôt horrifique, qu'est-ce qui t'a amené à ce type de jeu plutôt héroïque, alors je veux dire fantasy pour les Chinois, mais qu'est-ce qui est appréciable pour toi dans ce monde?
Il est sponsorisé par le Parti communiste chinois.
Très honnêtement, ma femme.
Là, comme ça, je vois pas le rapport. Les
en fait, c'est elle qui m'a fait découvrir cette littérature-là. Et, parce que je l'ai fait jouer pour la première fois au jeu de rôle, je sais pas, il y a 5-6 ans, quoi. Elle a dit, oh là, ça me fait vachement penser, en fait, à un truc que je lisais vachement, enfin, que je continue à lire beaucoup en Chine, qui sont des récits d'aventure comme ça, un peu punchy, un peu fantastique, etc. Et c'est elle qui m'a filé, en fait, tous ces romans, en fait, à lire en disant, bah, lis ça, tu vas voir, ça va te plaire.
Tu veux dire que nous, en Europe, on croit avoir inventé des trucs alors que les Chinois les ont inventés depuis 2000 ans? Mais non!
C'est toujours le cas, l'imprimerie, la boussole, tout ça. Après, on croit que c'est les Japonais, mais c'est.
Oh là là, il fallait qu'il la rajoute. Ok, au niveau de la création pure du jeu, est-ce que tu as rencontré des qu'est-ce qu'un auteur comme toi peut avoir comme difficulté en termes de création du jeu en lui-même, pas forcément le système, mais tout ce qui va être du lore en fait du truc.
Ah ça, en fait, c'est un truc qui me plaît beaucoup en fait pour l'écriture de jeu ou n'importe quoi d'ailleurs, c'est que tu es obligé d'aller rechercher en fait des détails particuliers, aller farfouiller sur internet, passer. En fait, moi, ça me gêne pas de passer des heures sur internet pour aller chercher des trucs bidons que personne n'ira chercher, ou tirer sur une petite ficelle en disant waouh, c'est super ce point, il faut absolument que je tire là-dessus. Alors, des fois tu débouches sur rien, t'as perdu 3 jours de ta vie, mais enfin c'est une curiosité en fait. Et tu te dis surtout, en fait, le jeu de rôle pour moi c'est un truc que tu partages avec des copains, c'est-à-dire que tu t'imagines plein de gens qui vont dire on va s'amuser avec ça, quoi. Et tu t'imagines que plein d'autres joueurs vont dire ouais, c'est marrant en fait, on va jouer avec ça. Et donc c'est un gros coffre à jouer que tu ouvres et que tu renverses sur la table en disant allez-y les gars, en fait on va appuyer dessus, quoi. Et c'est vraiment ça qui me motive le plus et qui n'est pas une difficulté en fait en soi. La seule difficulté, justement, c'est celle que tu évites, c'est celle du système et tout ça, parce que moi je suis une quiche en stats et tout ça, quoi.
D'accord. Là, on parle tout de suite de jeux donc de commercial, mais enfin finalement, enfin enfin, on est quasi tous zéroliste autour de la table. Je pense que tout le monde a voulu à un moment créer son univers. Juste, enfin, Ketrus avait préparé un petit truc sur une mini chronique d'intro sur le côté jeu amateur, jeu de rôle professionnel, appelons-le comme ça.
Donc en gros, pour moi, le jeu de rôle, c'est avant tout un prétexte pour l'imagination. Tu vois, qu'on soit joueur, maître de jeu, tout est une question d'abstraction, de projection dans un monde, dans son personnage, ses sentiments, etc. On s'appuie sur des règles, sur un univers préétabli qu'on a dans les bouquins, etc. Mais au final, on essaie toujours de se les approprier, d'y mettre sa touche, un peu de soi, quoi. C'est ce que tout le monde vit lors d'une partie, avec plus ou moins de réussite, de satisfaction, que tu sois maître de jeu ou joueur. Mais on s'aperçoit vite, et chacun, ou ce qu'on peut observer autour des tables, que certains ne s'en contentent pas. On a tous connu un DM ou un Dungeon Master, donc un maître de jeu en français, qui change les règles, voire change carrément le système de jeu, voire même va changer l'univers du jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour qu'il corresponde à ce qui va nous faire vivre, tu vois, un peu à la manière d'un réalisateur, quoi. Donc ça peut être bien, ça peut être moins bien. D'autres vont un peu encore, vont beaucoup plus loin, et c'est là où on arrive, on crée leur jeu de rôle, donc le jeu de rôle amateur. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle amateur ? Alors, c'est un peu compliqué parce que la limite entre jeu de rôle amateur, jeu de rôle qu'on pratique ou jeu de rôle commercial est assez ténue. Alors, ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que jeu de rôle amateur, ça désigne de façon très large tout jeu de rôle qui n'est pas édité par une entreprise commerciale. On peut aussi dire que c'est que le jeu de rôle pro est créé par une équipe dédiée, donc avec des gens salariés, que ce soit des scénaristes, des auteurs, des game designers, graphistes, maquettistes, etc., qui sont payés, et ce, dans un but lucratif, commercial, quoi. Par contre, un jeu de rôle amateur, c'est pas toujours gratuit, c'est pas toujours libre au niveau du système de jeu, au niveau des droits d'auteur, etc. Donc c'est vraiment une définition simpliste. Je vais pas essayer de faire un inventaire des jeux de rôle amateurs existants, c'est pas le but. Moi, ce que je voulais faire, c'était profiter un peu de Nicolas qui est là, et de Satan, qui est aussi en cours, on peut le dire, en cours d'écriture d'un jeu de rôle.
Ça fait longtemps, mais oui.
Ouais. Ça fait longtemps, enfin oui, disons que t'es pas au même stade que Nicolas, mais moi ça m'intéresse.
Ouais, j'ai une base, voilà. j'ai créé un jeu qui tourne
une
un
base,
peu.
Oui. T'as même plus qu'une base, tu veux en parler rapidement?
Bon, non, tu veux pas le présenter, sinon je veux bien, hein, mais...
Okay. L'un ou l'autre, comme vous voulez, en fait. Ah.
Donc, par contre, t'as pas encore forcément de nom, Western, tu l'appelles,
ouais, c'est ça? Enfin, ouais, enfin, j'ai pas vraiment de nom. J'ai pas
donc, c'est un jeu qui se passe au Western, donc entre les années, quoi, 1850-1920.
C'est vague, ouais, c'est vraiment par rapport au film, en fait. Ouais, c'est entièrement basé sur les films, quoi.
Ça peut être joué comme ça. C'est aussi, alors, la construction de personnages, c'est intéressant, on va en parler, qui est aussi un peu narrativiste sur la base.
Ouais, c'est le même genre d'idée, en fait. Et en fait, pour moi, les joueurs peuvent enfin créer qui veulent, entièrement. Et c'est le jeu qui dépend, en fait, de qui joue, en fait. Voilà.
Ouais, tu peux créer soit un loser fini, soit un super-héros.
Voilà, il y a des joueurs autour de la table qui font les chasseurs de primes super balèzes, qui tirent comme des déesses, parce qu'ils jouent des personnages féminins, ou t'as le pauvre Chicanos paumé. Voilà, et chacun, en fait, a son rôle à jouer. Enfin, le jeu s'adapte, en fait.
D'accord.
Voilà, ouais, c'est le Chicanos, voilà, il y aura que des méchants pourris en face, mais vu qu'il est pourri, il n'y arrivera pas. Le super personnage, super grand, beau, fort, etc., normalement, il va affronter des méchants super badass, super balèzes. Et normalement, le jeu s'adapte. Enfin, c'est comme ça, c'est sur là-dessus, voilà, que je suis parti. Bon,
c'est rapide. J'espère qu'on en parlera plus tard.
Plus tard, dans un jour, forcément.
Il sera édité ou pas. Mais justement, donc, tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon.
Non, c'était une question. C'était par rapport à la question jeu pro et jeu amateur. Par rapport aux joueurs, est-ce qu'il y a une différence entre du jeu qu'ils vont jouer, de son origine? Est-ce qu'il y a une différence de jouer un jeu pro ou un jeu amateur? L'intérêt, c'est la qualité du scénar et des outils du jeu, non ?
Pas forcément, moi, je dirais. Mais...
En fait, si tu veux parler franchement, je pense qu'on est tous au niveau amateur. Y a pas surtout dans le milieu du jeu de rôle. Enfin, tout le monde a, je disais, les rôlistes, c'est un peu comme dans les campagnes, les fusils de chasse dans les campagnes. Tout le monde a un jeu de rôle dans un placard, comme les autres, ils ont leur fusil dans le placard, si tu veux. Et à partir de là, il y a beaucoup de déperdition, en fait. C'est-à-dire que les gens ne vont pas jusqu'au bout de la démarche d'édition. Il y a énormément de jeux qui sont, entre guillemets, amateurs, qui mériteraient d'être édités. L'avantage d'être édité par un éditeur, c'est justement que tu as une relecture extérieure avec un gars qui va élaguer, en fait, ce qu'il y a de trop à l'intérieur de ton jeu. Et tout ça. Par exemple, pour Acheron, moi, c'est Fabien, il m'a sauvé la vie, quoi, parce que le truc, il faisait 320 pages. Et il y avait 220 qui étaient inutiles, quoi. Certains diront 320, mais ça, c'est un autre problème.
Et justement, en fait, donc pour toi, passer le pas du jeu, entre guillemets, amateur, au jeu chez un éditeur, donc vendu, commercialisé, c'est, tu tu disais, c'est pour avoir une relecture pour ce genre de choses, ou c'est un autre intérêt?
Là, je vais rentrer en guerre avec les gens qui sont pour l'indépendance pure et simple, etc., qui sont pour le jeu de rôle indépendant et tout. Pour moi, un éditeur, c'est quand même c'est un trésor, quoi, dans le sens où le gars, il va se charger de tous les trucs chiants, la communication, la gestion, te trouver un illustrateur, te trouver un maquettiste, te trouver tous ces trucs que t'es pas capable de faire, quoi. Et enfin, il va dire si ton jeu, oui ou non, en fait, quel point c'est génial et il faut absolument que tu pousses dessus, ou quel point, à ton avis, tu peux abandonner parce que ça va faire chier plein de gens, quoi. Après, moi, j'ai eu de la chance de bosser avec des gens qui sont super open et surtout qui sont francs, c'est-à-dire qui disent, bah ça, à mon avis, je pense que ça marche pas. Après, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais il dit, dans l'état, je trouve pas que ce soit génial, etc. Tu pourrais couper là, aller à l'essentiel. C'est le gars qui va chercher aussi, c'est quoi le cœur de ton jeu, en fait. Toi, tu renverses ton coffre à jouer, et lui, il trouve ce qu'il y a au milieu de plus intéressant, quoi. Et le jeu, par exemple, en l'état de Guilin, je pense qu'il y a moyen, en fait, clairement. Enfin, il est original, enfin, il y a plein de trucs dedans. Il aurait moyen s'il se bougeait un peu les fesses.
Et toi, t'as envie qu'il soit édité un jour, ou c'est juste...
Alors, personnellement, pour mon ego personnel, oui, bien sûr. Et puis pour le bonheur de milliers de joueurs qui vont y jouer après. Mais en fait, Nico a très peu parlé du travail que ça représente, quoi.
Ouais, voilà, en fait, c'est une question que je voulais amener.
Ouais, bah vas-y, mais c'est très très long, en fait.
Toi, t'as commencé quand, ne serait-ce que pour Acheron ou pour Wulin, t'as mis combien de temps à partir du moment où t'as eu l'idée de base en disant « Ok, je vais faire un jeu de rôle qui va baser sur ça ?» à l'édition complète et définitive du truc?
J'ai échoué mes études, ma femme est partie.
Mais non, tu as dit qu'elle était encore là, déconne pas, putain.
Non, en fait, pour faire un jeu, faire ta première base de jeu complète de A à Z que tu vas présenter à un éditeur, ça te prend, enfin, pour Acheron, je crois que ça m'a pris un an. Pour Wulin, c'est un peu particulier, parce qu'en plus, Chin était sorti quand il est fini, et là, je me suis fait rembarrer, parce que le mec, il sort un livre super, avec des tas d'illustrations et tout, donc j'avais mauvaise. Mais ça m'a pris un an et demi. Et après, t'as encore un travail de un an, pour voir plus, pour Wulin, je crois, de relecture, de, d'élagage, de trouver un illustrateur, parce que ça, c'est super compliqué. Enfin, Wulin, c'est 2 ans et demi, quoi.
D'accord. Mais 2 ans et demi, c'est quoi? C'est 1 heure par soir, 3 heures par semaine? C'est quoi exactement? Si tu passais pas toutes tes soirées dessus?
Je faisais à peu près 1 heure le matin, 1 heure le soir, et les week-ends, t'arrives à taper à 3 heures, quoi.
D'accord, ouais. Donc ça représente quand même un deuxième métier, quoi.
C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est pour ça que j'ai jamais fini bien. C'est parce qu'il faudrait que je le reprenne entièrement. J'ai déjà repris 3-4 fois depuis la création, pas en entier, hein. Et il faudrait que je le reprenne et que je recommence.
Ça demande vraiment une structure de travail assez énorme. Et je pense qu'avoir un éditeur là-dessus, en fait, ça te permet aussi d'avoir des deadlines au fur et à mesure.
C'est ça. En fait, ce qui est important, c'est un mec qui te met des coups de pied au cul, des coups de pression en disant vaut mieux que ce soit fini maintenant, parce que sinon, là, on va vraiment être en retard. Et donc, en fait, ce que m'avait dit Fabien, c'était le métier d'éditeur, c'est de te donner une deadline et de prévoir que tu vas avoir 6 mois de retard dessus pour sortir ton jeu à la bonne date.
Comme quoi, c'est un éditeur qui se connaît.
Et justement, à quel moment, parce qu'en fait, ce qu'on peut voir aussi dans le jeu amateur, c'est que c'est souvent une personne à la base toute seule qui a commencé dans les jeux plutôt commerciaux, il y a déjà toute une équipe de montée à la base. À quel moment tu t'es dit, toi aussi Satan, à quel moment vous dites bon ok, là j'ai travaillé tout seul, il va me falloir que je bosse avec d'autres personnes, sinon je pourrais pas continuer. Il y a cette réflexion à un moment donné, je sais pas tout faire, il faut qu'on m'aide, il faut que je le fasse lire, il faut que...
Si t'es correctement inclus dans un processus avec par ton éditeur, normalement ça va, parce que le gars te demande ton avis en disant voilà, j'ai trouvé X illustrateur, qu'est-ce qu'il te faut, je t'en propose plusieurs. Là, il y a qui propose des dessins en disant oui, non, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresse pas. Et après, tu discutes avec l'illustrateur et puis tu essaies de te mettre d'accord avec lui. Nous, pour Wulin, on a eu 3 illustrateurs, je crois, qui sont passés. Il y en a qui sont de très bons illustrateurs et ça ne fonctionnait pas avec le style, ou il y en avait qui ne se sentaient pas à l'aise avec. Et finalement, il a été trouvé un gars qui dessine du manga, tu vois. Enfin, c'est vraiment des recherches que tu n'as pas à faire. Et une fois que tu l'as faite, le gars, t'es libre, quoi, en fait. Il ne va jamais t'imposer un illustrateur en disant « Tiens, cet illustrateur, c'est ça. Hein. Ton seul ennemi, c'est le temps. »
Est-ce que toi, en fait, dès le début, tu t'es dit « Je prends un éditeur » au début du projet ou...
Pour Wulin, je l'ai présenté à la seule personne, je pensais, qui était dans ce type de jeu. Parce que les éditeurs sont quand même... ils ont des types de jeux particuliers. Et donc, il faut te tourner vers la bonne personne. Ça veut dire que si tu présentes un truc comme Wulin à Black Book, probablement, ils vont te dire non. Parce que ça ne correspond pas trop à leur ligne éditoriale, quoi. Par contre, si tu veux un truc un peu très pulp et tout ça, à l'époque, ça s'appelait Pulp Fever, en plus, Game Fu. Il était vachement là-dedans, quoi. Donc tu dis, ok, je pense que c'est plutôt vers lui qu'il faut aller.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où tu as dit « je fais Wulin », tu avais déjà, de toute façon, dans l'idée de voir un éditeur et de l'éditer, quoi.
Quand Chine est sorti, non. parce que je me suis dit laisse tomber, en fait je me fais pilonner quoi.
Mais avant au moment où tu l'as commencé,
au moment où je l'ai créé, ouais, je voulais absolument, parce que justement pour moi c'était un moyen de faire connaître un peu la culture chinoise avec des gens que j'aime bien, les rôlistes.
Moi pas du tout en fait, hein. Moi j'ai déjà écrit un autre jeu vite fait avant mon western là, qui était juste pour qu'on se marre en fait. Puis, voilà, il manquait un jeu sur les Space Marines de l'espace, donc je fais un jeu de voilà.
Qui était fun.
C'était juste pour il était fun, il écrit hein, d'ailleurs. Mais enfin, j'ai même pas pensé à le présenter en fait. Parce qu'après, je me suis dit tiens, j'ai fait un jeu, du coup, je suis capable d'en faire un qui tient la route. Et là, je me suis dit faut que je prenne un sujet qui me branche vraiment quoi, qui n'existe pas trop dans le jeu de rôle, enfin en France, parce qu'il y en a aux États-Unis, mais en France, il y en a très peu. Et j'avoue que c'est Pavillon Noir en fait. Quand j'ai vu la qualité de Pavillon Noir, je me suis dit il est capable de prendre un sujet genre les pirates. Il reste quand même un truc, genre on est pour enfants, tout ça quoi. En faire un vrai jeu, etc. Je me suis dit, je peux peut-être faire la même chose avec des cow-boys quoi.
Ouais, alors c'est un bon exemple, Pavillon Noir, parce que justement à la base c'était un jeu amateur, paru en 2000, quelque chose comme ça, puis après édité par Black Book en 2004.
Ouais.
Et tu parlais en fait de cette espèce de niche qui n'existe pas dans le jeu de rôle, et Pavillon Noir en fait il a fait un peu ça. Et c'est les jeux de piraterie, était pas, il n'y en avait pas vraiment de.
C'est potable. Pas une niche en fait, il y a eu 4-5 jeux, je crois, hein, qui ont été édités hein, sur des pirates, etc. C'est juste que ça restait débile, enfantin et un peu
ouais, du cul. Ouais, c'est un des jeux qui a mis le truc au niveau adulte en fait.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment le jeu, il a mis ça à un niveau où en fait tu peux faire des vraies aventures avec quoi. C'est plus juste t'es un banc, t'as un chapeau et fais ah yo ouais j'attaque.
Enfin, mais du coup tous les deux en fait vous avez essayé de faire un jeu, enfin vous avez pas essayé, vous l'avez fait. Vous avez fait des jeux dans des univers qui manquaient en quelque sorte quoi.
Vous avez trouvé un truc de niche ou c'est juste parce que le enfin toi Nico tu l'as plus ou moins dit, mais finalement c'est le thème qui vous plaît avant de faire le jeu.
Alors, moi c'est le thème, comme disait Nico, c'est vrai que passer des heures à regarder des vieux westerns pour prendre des citations dedans, il y a rien de mieux dans la vie quoi. Accessoirement, si par exemple je voulais faire un jeu d'Heroic Fantasy, en fait j'aurais beaucoup plus de références et en même temps plus de comparaisons. Ouais. Et en même temps, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un nouveau système ? Dans ce cas, pourquoi je ferais pas juste un MJ avec un nouveau monde à D&D par exemple ? Parce que voilà. Enfin, tu vois. Alors que dans le monde du western, c'est vrai qu'il y a très peu de jeux de rôle qui sont sortis.
D'accord.
Du coup, bah, peut-être que je peux voilà,
ouais, trouver pierre, justement vois, un truc qui n'est pas encore visité.
C'est ça.
Au niveau de ton jeu, Nico, aujourd'hui en termes de vente, c'est quoi avoir un bon jeu qui se vend bien et où tu en es toi par rapport à ça sur tes deux jeux ?
Les gros jeux, en fait, une bonne vente, c'est 1000 exemplaires. Ça paraît très peu, mais il faut savoir qu'un livre de jeux de rôle, ça fait jouer beaucoup de joueurs.
Oui,
et ça
clairement.
Tourne. En plus, avec les formats PDF, maintenant, c'est encore... pire, enfin encore pire, je sais pas si c'est pire, mais en tout cas c'est un PDF, ça tourne beaucoup plus facilement encore qu'un livre. Donc 1000 c'est bien, 2000 c'est une grosse vente, et après bon il y a les mastodontes genre Donjons et Dragons etc qui doivent plafonner à beaucoup plus que ça, je pense 5000 ou quelque chose, enfin bon je suis pas très, très sûr des chiffres. Moi je crois qu'on en est à 700 pour ce
sur All-in.
Ouais.
Et enfin, pour Acheron, t'as
combien eu beaucoup de succès à l'époque.
Pour Acheron, il y en a eu 1000, je crois, sortis, enfin de vendus. Et il y a eu l'extension là, à Shanghai qui s'est vendue aussi. Enfin, on est en rupture, mais on n'en a pas sorti beaucoup. Je crois qu'il y en avait 250.
Ouais, l'extension, ouais, ce que j'allais dire, ça va faire un tiers, un quart de ce qui a été édité à la base.
Après, généralement, quand une extension sort, tu revends des livres de base.
Oui, ce qui paraît logique. Et là, pour Lynn, justement, par en extension, bon, j'imagine qu'il y a des extensions prévues, il n'y a pas encore d'écran.
Il y a un écran qui va sortir normalement d'ici 3-4 mois si je me sors un peu les doigts des fesses. Et,
oui, d'ailleurs, si vous pouvez les sortir là-dessus, parce que ça fait bien gênant en fait.
Là, je m'essuie sur Gomelon. Hein,
oh.
Parce que en fait, les illustrateurs ont déjà fait le boulot. Il n'y a que les scénarios qui sont avec, c'est moi qui traîne. Et autrement, il y a une campagne qui est prévue que je vais faire tester en amont avant de la balancer.
Oula. Oui, on voit des mains qui se lèvent, oui.
Alors justement, c'est une bonne transition. Que ce soit pour Satan ou Nico, là. La première partie de test, ça s'est passé comment ? C'était comment ? C'était hyper flippant, c'était horrible, c'était génial, c'était intéressant.
La première partie de test pour Woolin,
ouais.
On a fait une création de personnage qui a duré 9 heures.
Putain.
C'était épouvantable en fait. Il y avait encore plus de trucs, de micro-règles qui servaient à rien, etc. à l'intérieur. Et ça s'est bien passé parce que c'est des copains en fait de la boîte avec qui on l'a fait sérieux quoi. Et donc ils m'ont fait des retours, avec le positif et le négatif. Après, ce qui est important pour les jeux et là pour Satan, je pense que c'est important, c'est de le faire tester en convention parce que c'est pas tes copains, parce que c'est des gens qui arrivent.
Zef m'a déjà forcé à le faire. Ouais,
c'est plusieurs fois.
Ils sont là 4 heures. Généralement, c'est des bons retours, c'est-à-dire que les gens vont te dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, et brut de décoffrage, quoi, en fait. Et souvent, les gens sont polis malgré tout. Mais,
ouais, et donc la première partie, ben, faut demander à Zef, parce que t'étais là forcément.
Ah oui.
Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de particulier. C'était des feuilles jaunes pour les feuilles de perso.
Oui. Parce que j'ai trouvé. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais méga accroché parce que déjà le côté western, et puis c'est le côté. Comme tu disais, en fait, tu crées ton perso et puis il n'y a plus rien derrière. En fait, enfin, le seul truc que tu as augmenté, c'est tes compétences avec le peu de points d'XP que tu peux avoir, mais c'est surtout que t'es.
T'as renommé aussi. T'as voilà. Renommé.
En fait, non, mais t'es apte directement à faire ce que t'as envie de jouer. T'es pas un pion de base qui dit putain, vas-y, le jour où je veux devenir guerrier, ça va me prendre 90 sénats. Là, t'es vraiment ce que tu veux directement.
Donc voilà, bah, j'ai réussi donc ma première séance, visiblement.
Non, mais pour toi, c'est ce que c'est.
Ah, bah moi, je. C'est pas... Non, en fait, je suis parti assez confiant, moi.
D'accord.
Moi, mais bon, enfin, je suis quand même MJ depuis très très longtemps, donc tu vois, quelque part, j'avais déjà une maîtrise du truc. Et non, c'est pas vraiment sur. Quand je l'ai présenté, c'était déjà bien carré. Pour la base. C'est-à-dire la feuille de perso, quel carac, etc. Ça m'a pris du temps déjà. J'avais déjà posé beaucoup de questions aux gens avant. Je suis pas parti moi-même de mon idée dans ma. Dans,
ah, bien
tu
sûr.
Vois. Et après, non, une fois que c'était fait, en fait, une fois que je l'ai fait jouer, j'étais sûr de la manière de le faire jouer. Après, il y a tous les détails derrière, par contre, là, il n'y a rien qui est fini, quoi.
En fait, tu amènes un point intéressant, parce que finalement, quand tu crées ton jeu, tu vois la direction dans laquelle tu veux mener tes scénarios et ton monde, mais comment tu fais, et ça, c'est plus une question pour Nico, mais comment tu fais justement pour retranscrire ça correctement dans ton bouquin, pour dire que les gens, en fait, vont pas devoir s'éloigner des choses au fur et à mesure, ou pas partir sur un truc que tu n'arrives pas à expliquer, en fait.
Oui, ouais, parce que le vrai challenge, c'est pas que les joueurs s'éclatent, mais c'est aussi que le MJ il puisse prendre ton matériel pour en faire ce que tu pensais.
Et voilà, qu'il parte pas sur une direction complètement opposée à ce que tu avais en tête, quoi.
Alors à partir du moment où tu as acheté un jeu qui t'appartient pas, tu vas un peu en faire ce que tu veux. Je pense qu'il y a autant de façons de jouer que de tables. Ça, c'est un peu un truc facile, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se réapproprient, qui prennent ce qui les intéresse et qui virent le reste, ce qui est tant mieux en fait. C'est ça qui est la magie du jeu de rôle.
Ça, c'est une victoire en fait pour toi ?
D'un certain côté, ouais, sauf s'ils en font vraiment n'importe quoi, parce que en fait, il y avait un. Comment ?
Non, moi, je suis pas d'accord en fait. Parce que sinon, t'as aucun intérêt d'acheter un jeu de rôle.
Ouais.
Quand t'achètes un jeu de rôle, t'essaies justement de te baser sur le livre. Pour essayer de t'inspirer du livre pour faire quelque chose de précis, quoi.
N'empêche que tu le changes, en fait. Tu changes des trucs, t'enlèves ce qui
tu changes parce que ou t'as pas compris, etc. Mais je veux dire, si j'achète un. Bah, par exemple, Wooline, j'ai pas envie de jouer. Enfin, sinon, j'aurais pas besoin de Wooline. Je pourrais apprendre des règles à la con que j'ai créé moi-même. Ouais, mais je pourrais l'adapter à tous les mondes.
Ouais, en fait. Après... C'est marrant parce que c'est le chien qui se mord la queue. Parce que tu t'appropries le livre, tu changes les règles, tu fais un peu autre chose et après tu crées ton propre jeu de rôle à partir de ça. C'est un peu. C'est ça un peu le cycle des jeux de rôle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ok, t'as des règles, mais on... par exemple, Donjons et Dragons, ce qu'on reproche, c'est trop de règles, tu vois.
En fait, là où je pense que qu'est-ce que tu veux en dire, c'est finalement, t'as dit un peu la même chose en disant, moi, je suis parti un peu de pavillon noir dans certains trucs, j'ai trouvé ça intéressant, donc je me suis un peu inspiré de ça pour faire aussi ma création à l'intérieur.
Alors, de l'esprit, soit, mais quand je joue à pavillon noir, par exemple, je ne modifie pas les règles.
D'accord, ok.
Voilà, tu vois,
c'est... Ouais, oui, bien sûr. Au final, ces jeux est créé pour qu'ils soient durs ou difficiles ou avec certains talents ou machin, c'est pas la peine de les enlever parce que ça fait chier les joueurs, sinon tu enlèves aussi un peu le cœur du jeu.
Si ça fait chier le MJ ou le joueur, je comprends qu'on change. Par exemple, quand on a fait les campagnes pour l'appel de Cthulhu.
Ouais.
La première, on l'a fait. J'ai changé. Bah, bon, là, on parle de la campagne, mais j'ai changé la campagne parce que vous n'auriez pas pu réussir.
Ouais.
La deuxième, je vous ai dit, hein, je vais faire cache pour rigoler comme ça. Voilà, on va faire comme c'est écrit dans le bouquin, quoi. Il y a eu 18 morts sur 5. Enfin, 5
oui,
joueurs,
oui, oui. Voilà. Forcément, ça devient très dur. Hein.
Je veux dire, voilà, c'est pas forcément. Enfin,
après, l'esprit global, il faut parler cache. Ça veut dire que tu dis, voilà, j'ai fait un jeu de héros. Et puis du coup, ce jeu, ça a pas. Je le mets en entrée de celui-là. Moi, j'ai dit, si vous voulez jouer des minables, jouez pas à jeu, quoi. Enfin, il y a plein de jeux qui peuvent vous contenter. Si tu joues par exemple un jeu comme Game of Thrones, tu sais que ça va être puant, quoi. Oui. Sinon, t'as perdu le jeu, quoi. Enfin, d'un certain côté, t'as perdu le truc global. Et ça, c'est assez facile à saisir. D'une part, parce que ton introduction, elle cale le bonhomme, quand même. Enfin, généralement, on parle de légende, on parle pas de miséreux. Et de deux, normalement, le système de règles, pour moi, c'est important. Le système de règles, il t'aide à poser ça. Ça veut dire que dans Wooline, en fait, déjà, le joueur, il choisit son seuil de difficulté. Il perd des points s'il n'est pas assez, s'il n'est pas assez héroïque. En gros, ça te pousse. Enfin, tu pousses le joueur par le système de jeu à adopter un comportement héroïque. Parce que tu le sanctionnes d'un certain côté s'il ne le fait pas. Et si tu veux jouer à un jeu gritty, tu vois, où tu as vachement peur de te prendre une balle, tu aurais un jeu de flic ou un truc comme ça. Dans Cops, je l'avais modifié parce que je trouvais que c'était pas assez angoissant, les fusillades. tu réduis un niveau de points de vie, tu réduis un truc comme ça, tu fais que les balles c'est mortel, et là les mecs ils vont hésiter à sortir leur pétard quoi. Tu vois, enfin c'est.
Dans ce cas-là, tu changes les règles, mais tu changes pas l'esprit du jeu. Enfin,
oui, je sais voilà, pas, c'est oui, un peu difficile. Mais non, mais c'est léger en fait. Dans
voilà, il faut que ça reste léger, sinon tu n'aurais pas besoin d'acheter des nouveaux livres de règles.
Kétru, ça a une dernière question.
Ouais, alors ouais, pour finir cette interview, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des gens qui hésitent, tu vois, à créer son jeu de rôle, qu'est-ce qu'il y a pour faire passer le pas, et derrière, est-ce qu'il y a des recettes, est-ce qu'il y a des conseils de base, voilà, à part beaucoup travailler et savoir que ça va être compliqué.
Faire tester ton jeu par plein de gens différents, y compris des gens que tu connais pas. Faut le tester tout le temps, jusqu'à ce que les gens te fassent des retours, parce qu'ils font tous des retours. Tout le monde est intéressé par quand tu crées quelque chose et que tu demandes l'avis de quelqu'un. La plupart des joueurs, ils vont te donner leur avis, hein, et ça leur fait plaisir de participer à ce genre de truc. Et les gens ont pas mal de questions des fois que t'aurais jamais pensé à ça, et ça va t'illuminer ta vie pour le reste du truc. Ils vont dire, mais ouais, comment j'ai pas pensé à cette question là quoi.
C'est vrai que les gens adorent ça en fait. Quand tu leur dis que tu proposes un truc, qui vraiment quoi.
Ça me fait penser à une partie qu'on avait fait avec les lames du cardinal, avec le créateur, justement, juste à la fin de la partie, t'avais tout le monde qui était autour de lui en disant oh, putain, mais j'ai pas pensé à ça, machin et tout. Et en fait, le gars était vraiment content de voir que les gens étaient vraiment intéressés par son truc. Quoi.
Ouais, moi, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut se préparer à travailler quoi. Ouais. Si vous voulez sortir un truc qui tient la route, c'est, voilà, c'est beaucoup de travail, enfin beaucoup de relecture, voilà. Et de pas rester enfermé. Je connais 2-3 personnes qui ont voulu créer leur jeu, qui comprennent pas que ça se vende pas ou que les gens leur parlent pas en fait, parce qu'il y a des gens. Ils font tester les parties, personne ne. Ils disent non, mais c'était bien, tu vois.
Ouais, ils osent pas dire.
En général, c'est parce que voilà, c'est la personne qui l'a écrit, c'est un. Il est auto-centré sur, sur lui-même, et il oublie de s'ouvrir un petit peu, d'ouvrir ses chakras en fait, ou son énergie interne, son égong. voilà, okay. C'est avec les gens autour de lui.
Ok, ben merci beaucoup. On doit être très en retard, mais c'est pas très grave parce que c'est super intéressant tout ça. Je vais commencer par remercier tout le monde autour de cette table. Merci Satan.
Ah, mais je t'en prie, c'est un plaisir.
Merci Kétrus pour cette belle partie aussi, pour l'ingé son derrière aussi.
Ben merci à tout le monde, c'était super intéressant.
Merci Gomelon pour la première partie sur le jeu de plateau. On t'entend pas beaucoup sur le jeu de rôle, mais tu n'en fais pas encore assez, c'est normal, mais ça viendra petit à petit, tu passeras du côté obscur.
Il m'a promis.
Tu vas faire.
Ouais, j'ai un test à faire.
Et surtout, merci Nico pour cette grosse partie d'interview. C'était super sympa de voir, d'avoir un auteur autour de cette table. Je continue à dire auteur.
Arrêtez à dire ce truc. On est juste l'aristocratie du jeu, c'est tout. Hein. Ouais, c'est juste qu'il faut préciser.
Oui, Kétrus.
Ouais, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, si vous voulez nous envoyer des exemples de jeux amateurs ou les vôtres sur Twitter ou Facebook.
Ah, complètement. Ouais, n'hésitez surtout pas à nous envoyer ça, parce que pour le coup, on est vraiment intéressé à tester, de faire des retours et pourquoi pas éventuellement d'en parler par la suite. Aussi, ouais, ok, donc merci à tous. Alors une petite annonce un peu spéciale, on l'a dit en début d'émission, mais effectivement pour la prochaine émission, donc qui sera celle du début du mois de mars, on sera au Fige, donc je crois que c'est le 25-26 février, je n'ai pas noté les dates, au Festival International du Jeu de Cannes. On sera là-bas, il y aura une grosse partie des chroniqueurs en tout cas, tout le monde ne sera pas là, mais tant pis, hein, pour ceux qui ne viennent pas, c'est dommage, ils feront une murder en plus pendant ce temps-là, c'est salaud. Ouais. Donc on sera là-bas, on ne portera pas forcément de t-shirt parce qu'on n'a pas envie de se faire remarquer, mais on essaiera de choper quelques auteurs pour faire une émission spéciale là-bas sur place avec des auteurs de jeux de plateau, de jeux de rôle, de ceux qui vont bien passer avec nous dans l'émission, et je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on arrivera à voir en tout cas. Si vous avez envie de nous voir là-bas, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Facebook ou Twitter, on sera toujours très heureux de voir des personnes parler avec nous de l'émission ou d'autres choses, ou de jouer avec nous, parce qu'on sera off de Cannes aussi, on y passera pas une bonne partie de la nuit. Voilà, ça c'est pour la petite annonce. Je rappelle donc que la Ligue des joueurs ordinaires est une émission produite par Radio Kawa. Vous nous retrouvez donc sur radiokawa.com dans la section VRAC, mais aussi sur iTunes et sur tous les bons sites de téléchargement de podcasts. Faites-vous part de vos idées, de vos avis sur Radio Kawa, sur Twitter, @Ligue des joueurs, sur la page de Facebook, la Ligue des joueurs ordinaires, toujours si bien administrée par Flowette qui n'est pas présente ce mois-ci encore.
Sauf si vous êtes japonais.
Et quoi ?
Sauf si vous êtes japonais.
Oui, bon, d'accord. Alors,
dis-moi, c'est bien japonais qui a inventé le kung fu chinois.
Non, ce sera coupé au montage, tout ça. Bon, merci à tous, et je vous dis dans un mois. À la prochaine, ciao, ciao.
Bye.
Regarder du porno, mais il faut le regarder intelligemment. Ce genre de phrases très intelligentes, vous ne pourrez les entendre que dans Allo Central, le podcast de Radio Kawa qui parle de tout, sauf de porno en fait. Ciné, séries, littérature, BD, musique et sorties, les chroniqueurs vous présentent tous leurs coups de cœur et font le tour de l'actu avec bonne humeur, avec en plus le rire de Clémence. Allo Central avec Alex le serveur et Luxbox,
c'est génial.
Et c'est sur Radio Kawa.
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Wink. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.